Vous aimez les balades en forêt? Vous aimez les pique-niques en forêt? Vous aimez tuer des gens en forêt? Alors vous aimerez ce numéro de Parlons Péloche. Parlons Péloche, aujourd'hui il sera question des films de chasse à l'homme. Le film de chasse à l'homme est un dérivé du film de survie dans lequel un groupe d'humains cherche à tuer un autre groupe d'humains. A la différence du survival pur, le film de chasse à l'homme laisse autant d'importance aux chassés qu'aux chasseurs, en plaçant notamment les motivations du chasseur comme sujet central du film. Mais ça, c'est ce que nous dit Wikipédia. De notre côté, autour de la table, nous allons tenter de définir ce que nous attendons d'un film de chasse à l'homme. Nous nous demanderons également ce qu'est devenu ce genre en donnant nos impressions sur 3 films de chasse à l'homme sortis sur ces dernières années. Et c'est après avoir évoqué nos films de chasse à l'homme de référence qu'Antoine prendra son fusil à sornette pour nous chasser à coups de blagues et de farandole dans la dernière séquence de l'émission. Le pilule bleu,
mon Dieu.
Pilule rouge, son gros fusil à sornette. Hein. Mais pour parler des films de chasse à l'homme autour de la table, vous le connaissez sûrement, car pendant ses vacances au Mexique, il a vécu une chiasse à l'homme, c'est Tristan.
Bonsoir Thomas.
Vous le connaissez sûrement car avec ses amis judéo-chrétiens, il pratique régulièrement la chasse shalom. C'est faux.
Salut Thomas.
Vous le connaissez sûrement car pour essayer de le traquer en forêt et de l'éliminer, certains de nos auditeurs ont conçu un apo imitant à la perfection son rire farfelu. C'est Antoine. Bonsoir Antoine.
Bonsoir Thomas, bonsoir tout le monde.
J'ai ramené cet apo sur moi, regarde. En fait, ça, il arrive. Et enfin, c'est sa première émission avec nous, mais vous la connaissez sûrement, car pour obtenir cette place, elle a dû gagner un Hunger Games que nous avons organisé dans la forêt de Falampin. L'événement a fait plus de 80 victimes, mais a surtout fait une grande gagnante que nous avons autour de la table ce soir. C'est Patty. Bonsoir, Patty.
Bonsoir. Bonsoir à tous.
Elle a pas dit bonsoir, Thomas.
Bonsoir, Thomas.
Voilà. Il y a des règles ici. Peu importe qu'on soit nouveau, peu importe qu'on soit gentil. Bonsoir Thomas, je n'en dérogerai pas, n'est-ce pas Fouad ?
Absolument.
Voilà. Eh bien voilà, c'est après avoir fait cette intro que nous allons tranquillement et joyeusement dans la bonne humeur suer des gens. Voilà. Vous êtes prêts ? Avec la première séquence de l'émission, le tas de beaux yeux, tu sais.
Tas de beaux yeux, tu sais.
Et happening directement dans l'émission, on n'a même pas commencé que Patty m'explique qu'elle ne m'a pas dit bonjour Thomas car en fait son vrai prénom est Patty Maël. Donc j'invite quelqu'un dans l'émission et je ne l'appelle pas par son vrai prénom. C'est comme si Fouad je t'appelais. Tu vois, il manque un bout.
Ou moi tu m'appelais Antoine depuis 80 émissions quoi.
Et tu t'appelles comment Antoine en vrai?
Je m'appelle Marc.
Ça va. Mais on va changer le site internet, on va se débrouiller.
Non, c'est faux. C'est...
Ah, ça va, dans le tas de beaux, tu sais, nous allons définir ce que nous attendons.
Oui, Béa.
Ah, Béa, mais Béa n'est pas là, mais je vous expliquerai.
Dans la forêt.
Béa a participé à ce fameux Hunger Games parce que j'ai tout remis en cause. Et tu
elle est baïonnée.
Tu l'as eu comment, Patty, avec un javelot?
Béa, oui, c'est ça, un javelot, comme ça, à 90 degrés, bim, bien revenir.
Dans le fémoral, directement. Dans le tas de beaux yeux, tu sais, nous allons définir... Ah, ça pardonne pas. Nous allons définir ce que nous attendons d'un film de
le
chasse
fémoral.
À l'homme.
Mais oui, c'est vrai.
La fémorale.
Le fémur.
L'artère fémorale.
La fémorale, voilà. Okay. It touched my fémorale, c'est ce qu'elle a crié en mourant. Pour savoir quelles seront nos motivations.
En anglais.
Ah oui, c'est pas pourquoi c'est sorti comme ça.
Il fait chaud.
Cette émission est décousue d'entrée. Hein. D'entrée, je pense que c'est de la faute de Patty Maël, qui a une très mauvaise influence, n'est-ce pas, Patty Maël?
Ouais, je crois. Mais moi, je suis super contente en plus d'être là. Je mets des têtes sur des rires et tout. Enfin, c'est complètement.
Sur un rire en particulier. Mais tu es la bienvenue, Patty Maël, ça fait très plaisir. Vraiment, je peux pas t'appeler Patty?
Si, tu peux m'appeler Patty, si, mais c'était pour à titre informatif de ma vie. J'avais envie de raconter un petit
bien,
peu ma vie.
Ouais, on a ton état civil. Et toi, tu préfères.
Batma?
Tu préfères quoi?
Non, Patty, c'est bien. Patty. C'est bien, en fait, mon prénom s'appelle Patty. Enfin, c'est un prénom composé. Ouais. Mais appelez-moi Patty, on est en train de perdre les jeux.
Je sais pas si vous avez cette sensation chez vous, mais moi, j'ai cette sensation ici qu'on s'éloigne du
jeu. On patine.
On patine.
Oh, yes.
Patine, Maël.
Moi, je préfère qu'on m'appelle Marc. Hein.
Ce n'est pas ton prénom, Antoine. Arrête
et il veut changer de vie.
Donc Béa n'est pas là, qu'est-ce qu'on a dit? Fémoral. Dans le tas de beaux yeux, tu sais, nous allons définir ce que nous attendons d'un film de chasse à l'homme pour savoir quelles sont nos motivations, qu'est-ce qui nous pousse à aller voir ça au cinéma. Je l'ai dit dans l'introduction, un film de chasse à l'homme est un survival dans lequel les motifs du chasseur représentent l'élément principal de l'intrigue. Mais pour vous autour de la table, qu'est-ce qui symbolise ce genre? Il me paraît évident que étant donné que Patty Maëlle est nouvelle autour de la table, de donner la parole à Fouad qui a vivement recommandé de ce genre. C'est ton idée, Fouad, oui, de traiter la chasse à l'homme. Ouais. Pourquoi et qu'est-ce que tu attends de ce genre?
Parce que c'est un genre un peu... Alors, il faut être honnête. Hein. Enfin, moi, je vais être franc. Hein.
Bah ça, c'est bien que... ce qui t'honore régulièrement. Ouais.
C'est qu'en fait, c'est un genre... C'est comme tu disais, c'est un sous-genre du survival. Ouais. Et c'est aussi un cousin... C'est un cousin un peu du rap and revenge d'une certaine manière, parce que c'est un genre qui
il y a un passé sombre.
Ouais, voilà, c'est ça.
Ça appelle à la vengeance.
Ouais, il y a ça flatte un peu des bas instincts, hein, c'est la violence, le sang, les la vengeance, la souffrance, hein, le spectacle de la souffrance de quelqu'un qui souffre, de quelqu'un qui saigne, etc. Et en face la représentation de quelqu'un en colère qui est animé par la haine, la vengeance, qui est armé, qui veut tuer, par l'envie de tuer. Donc on a d'un côté l'envie de tuer et de l'autre la souffrance. Donc il y a une certaine forme de perversité et il y a aussi un côté...
On est naturellement allé vers toi.
Non mais il faut se le dire, des fois les films te permettent d'assouvir en toute sécurité.
Curiosité morbide.
Ouais, c'est ça, il y a un peu de la curiosité morbide, il faut le dire. Hein,
pourquoi Saw, ça cartonne? À un moment donné, on va pas se cacher derrière notre petit doigt.
Et du coup, ouais, je me suis dit, tiens, ouais, ça peut être un genre sympa à évoquer, parce que dans ce genre-là, t'as aussi bien du fantastique, tu as parfois aussi des films qui virent vers la comédie. Ouais. Et je trouve que c'est un genre très intéressant, parce que c'est une chasse, c'est très simple, c'est très pur. C'est un personnage chassé qui veut survivre et qui est poursuivi par des gens qui veulent savoir.
C'est très simple, même si effectivement on a les règles de base qui sont indiquées dans le genre, mais on a quand même des fois cette notion de flou sur pourquoi la personne est chassée, et c'est en ça que le film peut devenir intéressant. Et tu parlais d'un genre qui vient tutoyer beaucoup d'autres genres. On verra dans la sélection qu'on a déjà pas mal de différences entre les trois films qu'on va évoquer ce soir. Patty, tu... Et la bienvenue, présente-toi peut-être 2 minutes sur toi, ton curriculum vitae, et qu'est-ce que tu as à nous raconter sur toi, Patty?
Eh ben, je m'appelle donc Patty Maëlle.
Ouais, j'ai du mal à l'avoir.
Bien compris.
Non, Patty, c'est cool. Mais moi, en fait, je suis une passionnée de cinéma depuis longtemps, et vraiment depuis très très longtemps, ma sœur me donnait comme exercice de réciter des scènes de films quand j'avais environ 5 ans, et c'était des scènes
Mon
de films...
Mon vélo à toi.
Non, encore si ça avait été ça, non, c'était des trucs un peu à American Beauty, tout ça, enfin vraiment les trucs un peu trash, voilà. Mm. Et je me suis dit, mais j'adore ça en fait, hein, voilà, donc depuis très longtemps j'ai cette passion-là.
Et ce soir, tu nous réciteras ton...
Elle a mis les dents de sa sœur sur le trottoir un moment, c'est mal passé.
C'est vrai que le cinéma est vaste. Et donc, les films, on t'invite sur un premier genre assez sympathique pour toi, le film de chasse à l'homme. Est-ce que tu aimes ce genre?
Non. Moi, j'avais proposé Amérique latine. Hein,
oui, c'est vrai qu'à la base, on...
Ah oui, c'est vrai.
À la base, on ne devait pas faire ça.
J'ai trouvé un petit compromis, et vous verrez tout à l'heure.
Oh, elle manie l'art du teasing. C'est pour ça que je l'ai prise dans l'émission. C'est Patty Maëlle. Qu'est-ce que tu penses des films? On fait les transitions qu'on peut. Qu'est-ce que tu penses des films de chasse à l'homme?
Moi, c'est pas le genre, en fait, que je regarde particulièrement. Enfin, je me dis pas je vais aller voir ça parce que on va suivre un mec et qu'on va essayer de le tuer. Après, il s'avère qu'il y a beaucoup de films que j'aime où je me suis rendu compte en préparant cette émission que c'était des films en fait de chasse à l'homme,
qui tutoyaient genre survival.
Voilà, c'est ça. Mais sinon, après, c'est vrai que non, c'est pas mon genre préféré, mais j'y trouve un peu de plaisir parfois, et c'est un peu du guilty pleasure, parce que vraiment c'est vraiment pour la violence, et la violence pour la violence, gratos, avec un peu de rire, et puis voilà.
Du guilty pleasure, ça rejoint déjà Fouad, donc il y a peut-être une petite entente déjà qui se crée entre vous deux. Qu'est-ce que t'en penses, Fouad?
J'ai l'impression, ouais, effectivement.
Bon, on va parler
de l'œil un peu de...
Ouais. Attends, j'ai écouté l'ancienne émission, je vais faire attention, parce qu'il s'avère qu'a priori pour un... C'était quoi, je sais plus, pour... Les filles te faisaient des bisous et tu leur donnais des réponses.
Ouais, en primaire.
Ah ouais,
on déterre les dossiers.
Si on commence à creuser le passé de Fouad, ça se passe toujours très mal.
Il faut utiliser ses talents, tu sais, comme tu peux, quoi.
Ça, c'est bien dit. En parlant de talent, il y a quelqu'un autour de la table qui n'est pas là, c'est Béa, et je me suis dit que ce serait quand même intéressant de prendre de ses nouvelles, donc je propose qu'on l'appelle comme ça à la volée, à la débeauté. Elle n'est pas du tout prévenue, hein, évidemment. On est bien sans elle, hein. On s'en rend compte très vite.
Tu dis ça juste pour qu'elle entende quand elle écoutera le podcast.
C'est pas impossible. Non, mais je trouve que vraiment, c'est un peu mieux quand elle est pas là. Bonjour Béa, comment tu vas? Tu nous manques, tu sais. Tu sais, Béa. T'es en direct dans Parlons Péloche.
Bonsoir Béa.
Béa.
Salut Béa. C'est une bande préenregistrée. Hein.
Ça va? Ça se passe pas bien sans moi, je pense.
Non, non, on était justement en train de dire tous ensemble, et il y avait consensus là-dessus, que tu nous manquais, que tu manquais au rythme de l'émission. Oh, notamment moi, j'ai relevé.
Et, c'est toi, moi.
Et Patty est en train de dire que tu lui manques beaucoup. Tu sais, celle qui est en train d'essayer de prendre ta place.
Bon, vous dites des choses intéressantes quand même ou pas?
Pour l'instant, pas trop, mais ce qu'on veut savoir, surtout,
c'est hyper gentil pour les deux qui en parlent.
C'est vrai que c'est un peu... Où tu es, Béa? On veut la France veut savoir.
Eh bien, je suis à Limoges, plus exactement à Bosmie-les-Billes. Wow.
Ouais, ouais.
Voilà, à l'anniversaire de Isabelle, également appelée Biquette, et qui est en fait une fidèle auditrice de Parlons Péloche d'ailleurs. Je suis en direct sur Parlons Péloche. Et elle a fait
elle est contente de
joyeux anniversaire, Isabelle.
Voilà, tu peux lui souhaiter un joyeux anniversaire.
Salut Thomas et bisous par l'OPH.
Bonsoir, c'est super ce qui se passe.
Raide, Isabelle.
Déjà déclinqué à 20h56.
Mais happening.
Ouais, non, mais c'est super. En termes d'happening, on est très très haut. Là, on est niveau France Inter, je pense. C'est super ça, Béa. Eh ben écoute, tu reviens quand dans l'émission, Béa?
Là déjà je suis dans l'émission, je ne suis pas partie Thomas, arrête avec ça,
c'est
je
pas
ne suis
faux,
pas partie, pas je, voilà, je suis là, je suis là.
Mais je te propose quelque chose Béa, je prendrai des nouvelles tout au fur et à mesure de l'émission de ton état d'ébriété.
Oui, parce que j'ai dit, ça va, pour le moment je suis qu'à l'apéro, je suis au vin là,
je suis qu'à l'apéro,
pour le moment ça va.
Ouais, l'apéro c'est vrai, on est déjà sur 3-4 verres donc Béa.
Pour le moment, voilà, pour le moment ça va.
Super, Béa, bah écoute, je prends des nouvelles, tu fais ça, tu veilles sur ton téléphone?
Oui, et ben je reste près de mon téléphone et appelez-moi.
C'est super, on fait comme
call
ça.
Me, baby.
Salut, salut Béa, super. Ouais, ça confirme qu'on est mieux sans elle, effectivement. Tristan, les films de chasse à l'homme. Est-ce que tu en attends quelque chose?
Moi, j'aime bien ça. Alors, il y a quand même plusieurs genres qui vont un peu se mélanger là-dedans parce que il y a des thrillers policiers où t'as le méchant qui va être traqué, soit un serial killer ou un fugitif, qui est le nom d'un certain film.
Ou quelqu'un fugitif, est fugitif.
Voilà, ouais, exactement. Ouais,
je l'avais.
Et à côté de ça, t'as un peu les jeux morbides avec les gens qui s'entretuent, comme les Battle Royale, les choses comme ça, que je trouve qu'en fait... Du coup, on mixe tout là-dedans. Est-ce que ça se rapproche plus du thriller? Est-ce que ça se rapproche plus du vrai film de chasse à l'homme? Je sais pas. Enfin,
du film d'aventure à la base. Hein,
du film d'aventure aussi, ouais, exactement. Ouais. Oui, parce qu'il y a aussi un côté jeu aussi, préparation avec des épreuves et tout. Donc, enfin, c'est un peu dur de le cadrer, mais j'attends surtout de la tension. J'attends d'avoir un peu la boule au ventre, d'avoir peur pour les protagonistes. Ouais.
De l'empathie, et on verra. De l'empathie, Maëlle, du coup. Jean-Michel Empathie, j'ai tout fait. Il fait chaud. J'avais dit que je le dirais pas à l'antenne, mais il fait chaud. On est déjà sur un. Voilà, on sera en difficulté ce soir.
Et la tension est amenée aussi par le rythme du film. Parce qu'il y a un côté course contre la montre, il y a des courses-poursuites.
Je dis souvent l'étau qui se resserre. Moi,
exactement.
Dans les films,
et ça peut être une course-poursuite à pied ou en voiture. Enfin, il y a tous les moyens de locomotion possibles. Voilà. Mais.
Ballon sauteur, ventre glisse.
Et voilà, un rythme, quoi. Un rythme soutenu, quoi.
Antoine.
Moi j'aime beaucoup les chasses à l'homme, c'est un sujet que je trouve intéressant parce que
je suis étonné parce que je croyais que t'étais en...
Non mais oui,
en cavale.
En fait, je suis toujours en flip sur ces films et c'est aussi pour ça que je les aime, c'est que ça me rappelle une émotion, un truc que j'ai beaucoup vécu, c'est quand on faisait... Oh, laissez-moi finir, ça va être logique.
Ça va être triste, je sens.
Non.
Ça va parler cours de récré.
Voilà, exactement. Quand on jouait, quand on était gosse, à la gamelle, au loup, à ce que vous voulez.
Ah, tu vois,
au foulard.
À ce moment où... Oui, j'avais parlé du fait qu'on était à bout de souffle, mais c'est pas le jeu du foulard. T'es atroce. Non, mais le fait où tu veux justement échapper ou autre, tu cours, et puis tu rigoles en même temps parce que tu t'amuses, et en même temps, t'es coincé et t'en peux plus et tu lâches, et c'est ce moment en fait, cette excitation que t'as juste de te faire traquer ou de traquer
stressé.
Quelqu'un dans cet instant là
c'est pas bête, et le cache-cache, c'est toute l'excitation du cache-cache,
c'est le principe même du cache-cache, c'est exactement ça, ou du prop-hunt.
Ouais, t'es satisfait d'avoir la bonne cachette
ou de détecter quelqu'un qui est caché et de le pourchasser, ainsi de suite. Et donc je trouve ça
tuer.
Non, alors, voilà, moi je me suis jamais arrivé là, je me suis arrêté bien avant. Mais non, c'est vraiment quelque chose que je trouve assez, assez cathartique, assez kiffant à regarder en général. J'avoue que c'est souvent des films qui sont empreints d'humour aussi et un peu de gore parce que c'est tellement un sujet un peu, on va dire, dur en soi, techniquement, de parler juste de cette pulsion désastreuse qui peut être le meurtre, ou du moins l'envie de tuer, ou les parties de chasse, ou même la chasse tout court, techniquement, que du coup, je pense que passer par le gore, l'humour et tout ça, ça joue un rôle important dans ces films. Mais voilà, moi, c'est des moments, je sais que c'est des films que je peux aller voir au cinéma en passant un bon moment. Voilà.
On a fait un bon tour de tout ce qu'on va dire. Fouad, tu peux rajouter
Juste un petit truc que j'ai oublié de dire. J'aime quand on est dans un cadre naturel. Une forêt,
un hypermarché.
Un hypermarché. faut que le cadre soit vraiment sauvage, naturel. Pour vraiment que le personnage perde ses repères et qu'on retrouve un peu ce côté primitif.
Alors j'ai découvert un exemple intéressant, mais quoi qu'il arrive, on a des films, on verra ce soir, où justement, dans le cadre d'une chasse à l'homme, même un milieu qui n'est pas du tout sauvage redevient sauvage, retrouve ses aspects sauvages. Ce qu'on n'a pas abordé éventuellement, c'est aussi beaucoup le profil des chasseurs. On retrouve chez les chasseurs des gens souvent qui sont une espèce de nec plus ultra de la violence et de la vilainie, et c'est des gens qu'on croise pas dans la vie en fait. Et on aime bien nous montrer ça, des gens typiquement complètement insensibles, complètement déterminés, et souvent les films se basent beaucoup autour de ces gens-là. C'est la figure horrifique de ces films parce qu'il y a forcément un peu d'horreur dans un film de chasseur.
Mais le héros peut être le chasseur ou le chasser aussi.
Et ça tout peut se transformer dans.
Il y a des anti-héros.
On verra.
Mais d'où le rapport de foi de Rape and Revenge, hein, qui globalement transforme la victime en chasseur.
Il y a une dynamique qui est presque équivalente.
Et je crois qu'on a fait un bon tour. Est-ce que quelqu'un veut rajouter ne serait-ce qu'un mot là-dessus? J'ai l'impression qu'on ne veut pas trop, donc ce que je vous propose...
Levure,
voilà, c'est comme ça qu'on terminera cette séquence, et on passe tout de suite à quoi, Fouad?
Oh, you fucked my wife.
Au nom de Zeus.
Mais Fouad, il veut déjà parler de ses références, hein, pour ça.
J'inverse toujours.
Nom de Zeus.
J'ai oublié de faire un deuxième happening parce qu'on a aussi David qui n'est pas là.
David.
Je me disais tiens qu'on pouvait prendre de ses nouvelles aussi. Lui il m'a dit qu'est-ce qu'il avait, il avait mieux à faire. Il m'a dit apparemment il est en train de prendre des petites vacances
le
sur
bâtard.
La côte.
Surtout qu'il a un Windows Phone je pense donc c'est un peu.
Ouais ça risque d'être compliqué avec. Je sais pas si ça capte. Hein.
Je pense que pour le coup lui est bourré.
Oh ouais.
À vu l'heure.
21h02.
Ouais, 21h02 ça fait 13h qu'il est bourré.
Oh, il est fini.
Il est au lit là.
Bon, en tout cas,
il commence à 7h30, je crois.
Il répond pas. Ah !
C'est bien avec un flag, son petit neige.
David, on se posait une question assez légitime. Hein, c'est Tristan qui mettait ça en dimension de savoir est-ce que t'es complètement déjà ivre-caisse à 21h03, David ?
Eh ben, absolument pas. Là, je suis en train de décharger la bagnole. Donc, je vous laisse imaginer.
Du pastis.
Décharger les voitures avec un gamin de 2 ans. C'est-à-dire que j'ai. Environ 17 000 sacs et le parking est à 5 minutes.
Mais
le
c'est
petit cottage.
C'est très intéressant ça, David.
Quelle aventure. Ah,
tu m'appelles,
ça, c'est de l'aventure.
Tu m'appelles, je suis en pleine galère, c'est pour ça en fait. Mais sinon, tout va bien. On a été sur la mer, on a été trempé nos pieds. Vraiment ambiance ces petits mouchoirs.
Il a oublié son gosse dans la bagnole.
C'est super. Du coup, on te manque pas trop finalement, David.
Bah si, tu vois, parce que tu me disais. Et en même temps. Le film de chasse à l'homme, tout ça. Non, en fait, j'en ai rien à secouer, mais bon, je suis avec vous par la pensée.
Bah, ça marche. Est-ce que tu veux qu'on vienne reprendre des petites nouvelles au cours de la soirée, David?
Mais n'hésitez pas. Et vas-y, appelle-moi autant que tu veux. Comme ça, je bois des bières à foison. Et comme ça, tu pourras me chronométrer et mesurer mon état
super.
Au cours de la soirée.
Super exemple pour la
David.
Jeunesse, ouais. Super. Bah, parfait, David, on fait comme ça. Faisons ça. Et moi, je te souhaite une excellente vie. Et puis, bonjour à la famille.
Bah ouais, puis bonne émission à vous tous. Et je vous aime énormément.
Merci, David.
Bien, c'est réciproque. Salut,
merci,
David.
Merci, David.
Sauf Tristan, évidemment.
C'est gentil. Voilà.
Salut.
Salut.
Hop.
Tocard,
c'est fait. C'est un peu un.
Ah, moi j'aime bien.
Alors donc.
Fais penser à mon père.
T'es le seul mec qui me chie pas dessus sur l'île.
Non, c'est pas vrai, Antoine. Tout le monde
pardon,
t'aime,
plaisante,
tu
plaisante.
Le sais. Ce qu'on aime aussi dans l'émission, c'est les happenings. Preuve en est. On en a enchaîné.
Et la chaleur.
La chaleur, on n'en peut plus déjà. Hein. Le nom de Zeus, c'est le moment de l'émission où on fait le tour d'horizon de 3 films de chasse à l'homme sortis sur ces 2 dernières années. pour voir ce qui est devenu ce genre aujourd'hui. On écoute tout de suite ce à quoi nous allons nous intéresser ce soir.
On a fait plein de super jeux ce soir. Mais il nous en reste un. Ça s'appelle « C'est maman qui choisit ». Lequel de vous survivra à la purge annuelle ?
Je sais ce que c'est. C'est le Manor Gate. Tous les ans, une élite friquée kidnappe des gens normaux comme nous. Où est-ce qu'ils vous ont enlevé ?
Dans le Wyoming.
À Orlando.
Dans le Mississippi.
Ce n'est pas une plaisanterie. Ils chassent des êtres humains pour le plaisir.
Ce ne sont pas des êtres humains.
Ceci n'est pas un exercice. Ce message d'alerte annonce le commencement de la purge annuelle. Dès que retentira la sirène, tout crime, y compris celui d'homicide, sera légal durant les 12 heures qui suivront. Votre gouvernement vous remercie de votre participation.
Well, you boys have a good day's hunting out there, eh?
We will.
Vous l'avez entendu, aujourd'hui, il sera question de The Hunt, Calibre et American Nightmare 3. Allez, on parle là-dessus. On commence donc par The Hunt de Greg Zobel. Sur fond d'obscures théories du complot sur Internet, un groupe de dirigeants se rassemble pour la première fois dans un manoir retiré afin de se divertir en chassant de simples citoyens américains. Mais leurs sombres desseins vont être mis en péril par Crystal, une de leurs proies capable de les battre à leur propre jeu. Voilà, c'est ça The Hunt. Alors ma question, pourquoi ce film est-il maudit, à votre avis ?
Ah, parce qu'il y avait eu des tueries aux États-Unis.
Il y a eu ce truc-là.
Ouais. Il a été repoussé.
Il a été repoussé.
Et après Covid.
Ouais. Il a été repoussé.
Il a un an de retard et ouais. Il n'est même pas sorti au ciné. Vraiment.
Exactement, voilà. D'accord. Il a été reporté à cause de tueries, donc celle de Daytona et El Paso en août 2019.
Merde.
D'ailleurs, la tuerie de El Paso, Patty, tout qui est d'origine guatémaltèque, tu connaissais des gens impliqués là-bas ?
Non. Malheureusement, j'ai rien à raconter sur cette histoire.
Qu'est-ce que tu
C'est mi-raciste, mi-gênant, pas marrant.
Très, Par contre, j'ai de la famille qui travaille à El Paso, le restaurant.
C'est une très bonne info, ça.
Vraiment, faut pas nous lancer sur El Rancho.
Ouais, parce que là, sinon, ouais. Donc oui, il y a eu deux tueries. Du coup, le film a été décalé à raison, ouais. Parce que bah voilà, ouais, on y parle une tuerie, de façon, tuerie. Et au moment de sa sortie, Covid-19, du coup, il est sorti directement en VOD. Là, vous pouvez le récupérer au cinéma, peut-être encore en ce moment. En tout cas, il est au moment de la réouverture des salles. The Hunt était au cinéma. Je peux vous le conseiller d'aller le voir au cinéma. Moi-même, l'ayant vu au cinéma, je trouve ça plutôt sympa de le découvrir.
Bon, on passe au suivant.
Ah, contexte. Passons au suivant. Calibre de Matt Palmer. Donc, Calibre. Alors, parce que là, l'émission, il faut qu'elle dure pas trop longtemps. Dans ce film, qu'est-ce qu'on en a pensé ? Je pense que je vais donner la parole à... Peut-être Fouad d'abord, parce que je pense que toi, t'as dû kiffer ce film, non ?
Oui, ouais, j'ai bien aimé, c'était une bonne surprise. C'est un film qui est, comme tu l'as dit, il y a eu beaucoup de buzz avant, longtemps avant. Et c'est un film dont j'ai entendu parler longtemps avant de le voir.
Ah, les tueries, c'est toujours un bon buzz. Hein.
C'est une bonne promo.
Non, mais alors j'ai dit ça, mais j'ai oublié de préciser que aussi au moment des projections, des premières projections, le film n'était pas validé parce que jugé trop violent, trop dérangeant. Et du coup, ils l'ont vachement assagi.
Alors il a été beaucoup vendu là-dessus. D'ailleurs, sur l'affiche, il y a des taglines, des extraits de critiques, genre le film le plus choquant de l'univers. Et tout. Vraiment, il y a un gros buzz.
Ce qui, avec, au final, n'est pas le cas.
Bah non, il y a lui inclusive. Hein, donc...
Et puis, il est beaucoup vendu sur Emma Roberts, l'actrice Emma Roberts, qui, en fait, on la voit très peu, finalement.
C'est ça qui est rigolo dans le film.
Et donc, c'est une prod Jason Blum, Blumhouse. Mmh. Donc, c'est toujours intéressant.
Parce il y en a deux ce soir.
Il y en a deux ce soir. Globalement, il y a un film sur deux qui est bien. Globalement, et je me suis dit bon allez on y va parce que c'est des prods qui sont toujours très efficaces et tout, et j'ai beaucoup aimé l'aspect social jusqu'au boutiste, et l'humour. L'humour dans la violence, donc il y a des scènes vraiment gratinées, assez trash, assez gore, mais qui sont traitées avec humour, et c'est surtout, parce que là je lève l'index droit en parlant,
je suis assez impressionné.
J'ai l'impression d'être un dictateur, mais tout va bien.
Un mec qui fait du stop mais qui a pas trop le code.
Ouais, j'ai pas le code. Et donc, et puis alors moi surtout, c'est la révélation d'une actrice que je connaissais pas, c'est Betty Gilpin.
Ouais.
Qui est absolument géniale. Elle a un... Dès que tu la vois... Alors, c'est elle qui est l'actrice principale, c'est elle l'héroïne du film. Et elle a un jeu comme ça, une manière de réciter ses répliques, un peu hachée, comme ça, un peu bizarre. Elle a un côté bizarre.
Mystique.
Mais dans le bon sens du terme.
Et c'est pas gratos.
Ouais, c'est pas gratos.
Il y en a qui interprètent un peu ce genre de rôle de manière gratuite, un peu artificielle. Elle, non, pas du tout. Je trouve que c'est très cohérent.
Et je trouve qu'elle sort totalement des standards des héroïnes de ce type de film. On a souvent, dans ce genre de film, des héroïnes en détresse.
Ou alors de la badass à la con.
Ou de la badass qui vont dans l'extrême inverse. Là, on est dans autre chose. Et c'est totalement savoureux. Et en fait, moi, après, c'est elle qui m'a embarqué dans le film. Ouais. J'étais dans le film vraiment pour elle, quoi. Et puis, il y a le sous-texte social qui est bien gratiné, j'aime bien. Donc, vraiment une super, super surprise, ouais, vraiment.
Et tu parlais d'Emma Roberts au début. En fait, alors, sans trop vous déflorer, il y a un petit jeu qui rigole beaucoup des codes du genre où s'offre une petite introduction, on va dire, peut-être 10-15 minutes, où on ne sait pas vraiment qui sera le héros et on n'arrête pas de s'attacher à des personnages. Et spoiler alert, il ne faut pas s'y attacher trop longtemps. Et ça, c'est hyper bien foutu.
C'est hyper intelligent.
Moi, je trouve même que dans les héros qu'on nous présente au début, qui finalement ne vont pas rester longtemps dans le film, on s'imagine déjà leurs histoires, leurs futures histoires d'amour, leur love interest.
c'est ça qui est bon, ça.
Bonnes fléchettes dans
ils jouent avec les archétypes.
Ouais, exactement. Ça, ils le font très bien. Tristan ?
Mais c'est là en fait que le film est bon, c'est parce que le scénario est bon. Et en fait, derrière, c'est Damon Lindelof et Nick Cuse qui ont fait Watchmen, Leftovers. Enfin, ils sont hyper hyper connus, hyper renommés. Enfin, à chaque fois, c'est ce qu'ils écrivent, c'est génial. Mmh. Et là, pour le coup, ça n'a rien à voir avec ce qu'ils écrivent d'habitude. Et c'est jouissif en fait. Enfin, ce film, je trouve que c'est hyper badass. Il y a le côté social, il y a le côté satire de la classe américaine. Tu sais jamais qui est le héros du film en fait. Tu vois autant les chassés que les chasseurs. Et je trouve que ils sont tous dans le même panier en fait. Tu discernes pas le bien du mal. Et je trouve que, je sais pas, c'est hyper réussi.
Et ça dénonce un petit truc aussi de, même si on est du côté des victimes, mais le fait de parler sur Internet tout le temps à visage couvert, des fois on peut se retrouver dans la merde à cause de ça.
C'est ça. Et en fait, c'est bien résumé. Moi, j'ai noté la phrase tout le monde ment. Et en fait, c'est bien résumé parce que tout le monde a un truc à cacher. Et tout le monde est. Enfin, pas tout le monde, mais il y a des racistes, des homophobes. Et en fait, là, ils sont vraiment tous dans le même panier. Tu sais plus qui est bon au final, même l'actrice, l'héroïne principale en fait. Tu sais pas trop ce qu'on lui reproche, tu sais pas si on lui reproche vraiment quelque chose, si elle a fait quelque chose de mal ou pas. En fait, tu sais pas jusqu'à la fin. Hilary Swank, je la trouve géniale aussi dans le film, je trouve que le combat final est top. Et c'est sanglant et jouissif.
Antoine, on est sur du sanglant, du jouissif, du...
Moi, j'ai trouvé ce film très marrant, très cool, très sympa. C'est vraiment une chasse à l'homme dans son archétype le plus pur, c'est-à-dire un jeu. Voilà, j'en parlais, c'est ce que je cherche aussi, c'est retrouver un peu ces sensations de jeu que j'avais quand j'étais enfant. Et là, on a... Alors, sans le côté morbide...
C'est de plus en plus flippant, Antoine. Hein.
Je suis retombé en enfance.
On avait tous un couteau papillon, je sais pas.
Moi, j'attaquais à la graffeuse directe, au niveau de la carotide.
Non, non. Ah, la fémorale.
Fémorale.
j'ai trouvé effectivement très bien écrit, c'est-à-dire que tout se tient. Moi qui est très attaché à la cohérence scénaristique, tout est cohérent. Du coup, les décisions des personnages, les choix, pourquoi tout le monde est au courant du Manor Gate, sauf l'héroïne principale et ainsi de suite. Il y a aussi un acteur que j'aime beaucoup qui est Ethan Suplee qui joue Gary, qui est le mec qui fait un podcast en plus dans le film, et qui est en fait le frère de Earl dans My Name is Earl. Je sais pas si vous connaissez cette série.
Génial.
Et j'ai reconnu
instant, j'ai tellement d'amour pour son personnage que j'étais en mode je suis trop en appréciation. Et même si il a un discours un peu de connard, j'étais comme je l'aime quand même.
Ouais, c'est un peu un raciste quand même.
C'est un gros raston.
Mais c'est le frère de Earl, donc ça va.
Il est super cet acteur.
Ouais. Donc Ethan Suplee, j'aime beaucoup. Et puis Fouad Ali, Betty Kilbin, incroyable. Et je trouve que en fait, ce qui est génial, c'est comme a dit Tristan, c'est que tout le monde ment et c'est un peu le sujet du film, c'est qu'on peut faire confiance à personne. Du début à la fin du film.
C'est génial.
Et je trouve que c'est c'est super bien amené, super bien fait, super bien tenu par tous les acteurs. Et ben moi, ça m'a emporté. J'ai passé un chouette moment pendant 1h30, 1h40.
Ouais.
Et franchement, j'ai absolument pas déçu.
Et tu vois, c'est un bon Blumhouse, c'est ce qui est pas le cas de.
Mais franchement, vous pouvez passer un petit moment, rigoler, pas vous prendre la tête. C'est un bon film.
C'est vraiment
bien. Pour moi, Blumhouse, c'est des mecs qui ont des, comment on appelle ça, des trucs.
Ils font un bon film sur 5.
Ouais, mais qui, tu sais, pour raviver un cœur là. Ils ont des défibrillateurs sur le genre horrifique en fait. Et du coup. Ouais. Ils essayent de te maintenir en vie et du coup ils en sortent, mais dans le tas, moi je prends souvent beaucoup de plaisir à voir les Blumhouse, même les pas très bons. Moi j'aime bien que Blumhouse existe en fait, ouais. Je trouve ça très cool. Ouvrez vos transistors, montez le son, le premier avis de Patty Maël dans l'émission. Donc pour l'instant on est sur un grand oui sur ce film, et je trouve que pour les salles qui ont réouvert, si vous voulez un peu reprendre goût au fait d'aller en salle au cinéma, c'est un bon film pour redémarrer la machine. Est-ce que tu partages cet avis? Non, t'as pas aimé.
Non, alors non, c'est pas que j'ai pas aimé, c'est que je suis vraiment.
T'avais demandé les films latinos.
Non, on en a bien latino là-dedans.
Il y a même pas un seul latino. Mais dans celui-ci, moi j'ai été assez mitigée. Je pense que les choses que j'ai vraiment appréciées, c'est le fait que, comme vous le disiez tout à l'heure, on s'attache pas au héros, on s'attache pas au personnage, ce qui fait que ça donne un petit côté, voilà, tu t'endors pas vraiment devant, quoi. Mais par contre, je trouve que pour moi, le second degré, il m'a un peu sorti. Je veux dire, il y a un moment, c'était trop drôle, en fait, pour que je m'attache vraiment à celle dont... Enfin, en fait, on me disait, tu vas t'attacher à cette fille, c'est elle qui va t'embarquer. Ouais. Et puis, en fait, j'étais, bah non, en fait, parce que moi, je ressens rien pour elle. Il y a un truc où vraiment, j'étais un peu passif devant le.
Moi, je te rejoins, parce que je m'attache pas de ouf à l'héroïne. Je m'attache comme foi à son interprétation, ça, je la trouve très cool. Mais l'héroïne, en fait, c'est une héroïne fonction, je m'en fous un peu. Mais bon, tu vois, mais ça m'a pas empêché d'aimer le film personnellement.
Ouais. Bah, en fait, après, moi, je l'ai pas détesté non plus, mais ce qui m'a fait. Enfin, ce que j'ai aimé aussi, c'est de voir que les gars qui l'ont fait, ils se sont fait plaisir, quoi. Ça fait vraiment partie des films où je vois, je me dis, ah, putain, ils ont kiffé. Ils voulaient mettre du gore, ils voulaient mettre des trucs drôles, des trucs un peu absurdes. Après le discours à la fin, franchement, ou alors j'ai pas compris, et là on peut débattre, mais pour moi, enfin, après, non, c'est peut-être une alerte spoil, mais je veux dire qu'en tout cas, j'ai peut-être pas forcément capté, et en fait, à force de vouloir trop dire, de donner son avis sur tout, je trouve que ça donne son avis sur rien, et ça fait un peu un film adolescent.
Ouais, mais pour moi, il n'y a pas énormément de messages dans ce film. C'est pas.
Non, c'est pas.
Ça balaye un peu tout. Quoi.
C'est pas un message, non, parce qu'en fait, c'est ça tape sur tout le monde. Ça tape sur tout le monde, donc ça tape sur personne, donc en fait, ouais. C'est ça. Si vous avez envie de vous faire plaisir pendant 1h30, si vous aimez bien ce genre de film, je pense que c'est cool, et à l'instar d'un American Nightmare, ben, pour moi, je préférais The Hunt.
Petit teasing aussi de la vie de Patty sur American Nightmare, mais je suis assez d'accord. Dans le genre, il répond, il coche toutes les cases, quoi. Plus la case du fun, et celle-ci, elle est importante.
Et Trump l'a méga critiqué sur Twitter.
Il a pas aimé ce film ?
Ah bah non, enfin, il l'a méga critiqué, il voulait pas qu'il sorte, et toute la team Trump, là, je pense que ça a donné du coup un peu une aura aussi à ce film-là.
Ça dévoile exactement ce qu'il est en train de faire avec son propre manoir à El Paso.
Il est sur l'affiche, non, Trump, non ?
Ah bon ? Non, c'est un coup.
Ah oui, oui. Parce qu'il y a un...
ça dénonce ici.
La petite blague ou quoi ?
On va avoir des petits problèmes.
Après, c'est la carotte qui va s'en prendre une belle, non ?
On va avoir des problèmes. Parlons Péloche, le podcast engagé.
Ouais, non, je trouve que le gouvernement américain, je suis pas...
C'est pas gentil.
J'en dirais pas plus.
Pourtant, t'es beaucoup plus laudatif sur la Corée du Nord.
Oui, mais ça, c'est un autre débat.
Bon, si l'enregistrement disparaît, vraiment, je réponds plus de rien.
C'est ton secret.
Le film de Chasse à l'homme doit-il être gore ? Patty en a parlé, il y a du gore dans ce film, on l'a largement dit, et le gore ici est pas mal tourné au fun. Je pense à cette scène où on voit des jambes s'envoler dans les airs, et il y a pas mal de choses dans le genre. Est-ce que vous, quand vous allez voir un film de Chasse à l'homme, vous voulez que les images soient explicites, qu'on voit du gore ? Patty ?
Ah bah oui, enfin, c'est un peu le truc qu'on demande, je pense, à ce genre de film, donc ouais, c'est ça, si vraiment il n'y a rien du tout... Bah, c'est pas vraiment une chasse à l'homme. Enfin, pour moi, à mon sens, c'est pas vraiment une chasse à l'homme. Mmh. Étant donné qu'on parle de chasser quelqu'un, il y a la notion de gibier, quoi. Donc, si à un moment, moi, je vois pas un cœur éventré ou ça se dit pas, mais voilà.
Si,
on l'a.
Vous avez l'image, et ben, c'est pas possible pour moi.
Même si on peut, pour moi, être.
Que ce soit réaliste ou pas, en fait.
Ouais.
Bah, c'est-à-dire que moi, je pense, si tu retires le gore, tu passes plus dans un thriller classique, tu vois.
Voilà, exactement.
En fait, l'avantage du gore, c'est que ça t'apprend bien que ce personnage que tu as vu est définitivement mort et il ne reviendra pas.
Ouais.
Alors que dans un thriller, on peut te faire croire que des personnages disparaissent, mais ils vont revenir après, exactement. Ainsi de suite. Et tu peux être dans un survival un peu horrifique où, en fait, voilà, il n'y a qu'une victime. Et
ouais, mais là, c'est le côté jeu et le côté fun qui apporte un gore un peu ensanglanté... très poussé, mais après le prochain, la Calibre, il est gore mais réaliste.
Donc,
mais oui. C'est ça qui est bien. C'est que quand le gore est au service du réalisme.
Et ça sert à apporter de l'attention.
Mais moi, derrière gore, là, dans ma question, je mettais quand même pas mal le gore visuel.
Graphique.
Les gore visuels, calibre. Enfin, il y a des
exagérés. Exagéré, parce que honnêtement.
Où tu vois du corps, tu vois de l'enfant mort.
Ouais, mais il n'y a pas d'hémoglobine, le truc, c'est plus.
Non.
Si on prend juste la scène d'introduction de The Hunt avec la scène dans l'avion, où, micro spoil, il y a quelqu'un qui se fait arracher un œil.
Ouais. Et en plus, cette scène, elle est dans la bande-annonce, donc, enfin, pas l'œil, mais, okay. Mais donc ça va.
Donc voilà, c'est du gore pour du gore, parce que physiquement, anatomiquement, je vous le dis, ça se passe pas comme
ouais,
ça.
Non, je m'en étais
c'est vraiment pour du cinoche.
Un œil, ça s'enlève pas avec un talon aiguille.
Et surtout, il y a.
J'apprends des choses ce soir.
On apprend des trucs. Quoi.
C'est pas du tout le bon câblage derrière. Donc.
Ouais, c'est en HDMI, je crois là.
Ouais, c'est ça.
Non, c'est de l'optique.
Ouais, c'est de la fibre optique.
C'est la fibre optique.
Bien joué.
Du coup, je pense qu'en fait, ça permet en fait de vraiment créer ce schisme entre la réalité. Quoi. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans un film, on est vraiment du cinéma, on est vraiment dans quelque chose effectivement de peut-être plus cathartique et imagé.
Quand tu
en fait,
mets
de
des images
réelles
comme
quoi.
Ça, gore, c'est ça.
Voilà. En fait, quand tu reviens au réel, tu peux du coup toucher à quelque chose de peut-être plus vrai. Et pour moi, tu touches une autre dimension. T'es plus dans une chasse à l'homme pure fun. T'es dans une chasse à l'homme plus avec un message peut-être plus fort sur d'autres convictions. Mais je pense que le gore permet en fait de scinder. La barrière du réel et qui permet de prendre ces films au second degré, au tiers degré et pas trop les prendre au sérieux.
Alors effectivement, si c'est amené d'une manière un peu comme dans justement The Hunt avec la scène de l'œil et du talon aiguille sans trop de réalisme, effectivement tu sors un peu du film et tu dis bon, il y a quand même un recul, il y a un second degré.
Ça te détend un peu quoi. Hein.
Mais quand le gore est amené dans le cadre et bien amené, c'est-à-dire vraiment de manière réaliste. Et
moi, je pense à Battle Royale plus
oui,
pour
voilà,
le
c'est
côté
ça.
Gore réaliste.
Parce que du coup, le gore est là pour représenter une souffrance physique atroce.
Ouais, c'est ça.
Et si à côté, le gore se traduit par une souffrance véritable des personnages et qu'on a à côté des personnages brossés et intéressants, là, effectivement, le gore te prend aux tripes. Le gore de Saw, par exemple, moi, ça me gonfle. J'y crois pas et je ressens rien pour les personnages. Mmh. Mais le gore du film de Chasse à l'homme, au contraire, il doit être là pour, comme tu disais, Patty Maël, les auditeurs sachent à qui je parle.
T'as bien nommé.
Il faut que le gore soit là pour signifier la souffrance physique.
C'est ça.
Mais du coup, c'est un peu un indicateur finalement, l'utilisation du gore. C'est soit tu l'utilises de manière plus moins abstraite et du coup là t'es clairement dans la souffrance, soit tu l'utilises de manière un peu fantaisiste et
c'est
là
comme dans,
on est dans un film qui va prendre du recul sur son sujet.
Absolument.
Et faire de la chasse à l'homme une vraie rigolade. On passe tout de suite à un film de vraie rigolade, hein. Calibre de Matt Palmer. Deux amis de longue date voient leurs nerfs et leurs valeurs rudement mis à l'épreuve quand un terrible événement vient perturber leur partie de chasse en Écosse. Alors, petit problème d'accent. On va le dire, c'est pas du spoil, mais l'événement qui vient perturber leur partie de chasse en Écosse, c'est qu'ils viennent, je sais pas prononcer Léo.
Écosse,
voilà. Ils flinguent un mioche sans faire exprès, dans la forêt, voilà en gros.
Pas de bol.
Et ben, Tristan m'a parlé de ce film en citant Fouad, il m'a dit. Après l'avoir vu, comme dirait Fouad Boudard, c'est une bonne péloche des familles. C'est vraiment ce qu'il m'a dit en plus. Et du coup,
je la reprends tout le temps cette expression.
Bah, c'est vrai qu'elle est pratique.
Ça résume tout.
Je suis assez d'accord sur Calibre, donc Tristan sur Calibre.
Ouais, alors moi, c'est vraiment le film qui m'a redonné envie de me remettre à la chasse. Quoi. J'ai envie de m'y remettre.
M'y remettre en plus. Genre, t'as déjà.
Ma 22 long riff.
Ta carabine.
Le petit Théo là, avec sa pomme-pote dans la main. Qu'est-ce que c'est bien, ça. C'est un pote.
Dans le Gévaudan.
Ouais.
c'est une bonne surprise. Tu vois, c'est. Alors pour le coup, vraiment, un film Netflix, moi je m'attends plus à rien. Hein.
Maintenant,
9 fois sur 10, t'es déçu. Donc,
il frôle la série B au début.
Au début,
on peut croire qu'on va partir sur une série B.
Oui, dans l'image et tout, ça a tous les codes en gros d'une série B. Quoi. Mais c'est un petit film qui a pas beaucoup de budget, je pense. Je vais pas regarder, mais en fait, c'est une histoire simple. Et je trouve que la scène d'exposition, elle est parfaite parce que tu t'identifies vraiment à ces deux chasseurs. Et la scène où il tire sur la biche et où il y a l'accident, en fait, je trouve qu'elle est vraiment prenante, quoi. Enfin, elle m'a glacé le sang, quoi. Je m'y attendais pas du tout. Moi, je pensais vraiment qu'ils allaient tomber sur un village de chelous qui allaient les chasser dans la forêt. Je m'attendais pas du tout à l'accident. Donc non, la surprise était là. Et le film est super beau. Je trouve que les paysages d'Écosse sont magnifiés. Enfin, c'est vraiment plutôt bien filmé. Et il y a cette atmosphère un peu glauque de ces villageois un peu bourrus, dégueulasses, qui parlent pas trop, qui sont assez violents, enfin assez.
On n'aime pas trop les étrangers.
Ils essayent de les embêter, voilà, ils aiment pas les étrangers. Ouais,
ils sont bourrus.
Exactement. Et non, ça marche bien, quoi. En tout cas, je me suis pris d'affection pour les deux personnages et surtout celui qui tire, enfin le plus faible, quoi.
Ouais.
Parce que l'autre, il est un peu. Bon,
je pense que l'objectif de nous, alors quand on est un mec lambda, quand on regarde ce film, on en parlera après de l'implication émotionnelle, mais c'est de se dire qu'est-ce que j'aurais fait à sa place. Et on a un peu les deux aspects de la réaction
mais
possible.
Mais t'y réfléchis, hein, tu te dis, bah non, j'aurais pas fait ça, moi.
Ah ouais, tu viens de te placer sur ce scénario. Patty, est-ce que tu apprécies ce film?
Oui, des trois, c'est vraiment celui que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé. Et en fait, je pense que c'est ça, c'est vraiment l'aspect où on s'identifie, où on se pose des questions sur nous, bah, qu'est-ce qu'on ferait vraiment concrètement face à ce genre de situation qui peut arriver en chasse, qui peut arriver en voiture, qui peut arriver
un homicide involontaire.
Voilà, c'est ça, c'est cet aspect-là et qui fait froid dans le dos. Et alors, en plus, psychologiquement, c'est ouf. Et puis, la photographie, je l'ai trouvée vraiment trop belle. Enfin, les images, elles sont vraiment chouettes. J'ai vraiment beaucoup apprécié ce film, et surtout aussi le fait que tout à l'heure tu parlais du fait que t'aimais bien dans les films de track un peu comme ça, que ça monte en pression, et je trouve que ce film pour le coup il est là, enfin voilà, ça monte en pression, l'explosion elle est finale,
l'escalade de la merde comme on dit ici.
Ouh là là, moi j'étais dans mon canapé, je mangeais mon oreiller, j'en pouvais plus, je voulais plus d'amis, plus je voulais pas voyager en Écosse jamais de la vie, et puis voilà c'est tout, mais voilà, et je voulais pas me remettre à la chasse par contre pour le coup. Non.
Est-ce que Antoine, tu as mangé de la lingerie de maison, du linge de maison en regardant ce film, ou est-ce que comment tu l'as?
Ah bah oui, j'ai refait tout mon appart. Hein,
ouais.
Non, non, oui, c'est un film qui est très prenant. Je trouve, comme vous l'avez dit, c'est la psychologie des personnages. Hein. C'est vraiment cet aspect, et on est tous d'accord pour le dire, c'est globalement, c'est qu'est-ce que nous on aurait fait. C'est-à-dire que c'est ça la beauté de ce film, c'est qu'il arrive à toucher ça chez nous. C'est-à-dire que là où The Hunt, on est dans le fun et on est juste en mode spectateur, on assiste à un spectacle, il y a du gore et tout ça. Là, on est dans un accident a eu lieu. C'est quoi le decision making derrière, quoi? Quelle décision tu vas prendre? Et je trouve ça bien parce que les deux personnages, même s'ils sont opposés et même s'ils sont potes, ils ont leur cohérence chacun. Pas forcément dans l'intérêt, on va dire, le plus moral ou le plus éthique ou autre, mais dans un intérêt très simple, un peu égoïste, égocentrique, mais qui va jusqu'au bout, quoi. C'est vraiment, comme tu disais, Patty Man, c'est vraiment cette cocotte minute.
Les gars, vous pouvez m'appeler Patty, en vrai.
Ouais, Patty nous a fait chier au début.
Mais non, moi, j'aime bien, je trouve ça classe.
J'aime bien, ça roule bien dans la bouche.
En tout cas,
tu dis, ils ont deux decision making différents.
Ouais, c'est ça. Non, mais je trouve que c'est bien de parler aussi. Alors, je trouve qu'il y a un propos social aussi un peu de cette culture du rural qui est un peu laissée à l'abandon et qui doit survivre comme ils peuvent.
Ouais.
Et surtout où la justice est gérée par la vie, quoi.
Et puis ils ont plus rien à perdre, quoi.
C'est ça.
Donc t'as encore plus peur pour les deux gars qui te disent putain, mais quand ils vont se faire choper là, ils sont morts. C'est terminé.
C'est l'émotionnel pur, tu vois. Et c'est là la force du film aussi, c'est que il te construit ça lentement. C'est-à-dire que le film dure 1h30, je crois.
Ouais, c'est
ça. Et pour moi, il y a trois parties distinctes, tu vois, de 30 minutes chacune, et qui montent chacune en pression et qui te ramènent tout le temps un seuil nouveau à chaque fois. Et ça te scotche. Ça te scotche totalement. Il y a des moments de silence.
Scotch d'Écosse, merci
de le dire.
Ah oui, scotch d'Écosse. Pardon. Bien joué. J'aime votre vivacité, là, les deux, là, Patty et Fouad. Hein. C'est bon, Antoine. Et du coup, on va faire les petites coulisses de Parlons Péloche. Donc, c'est toi, Fouad, qui a proposé ce genre avec cette sélection. J'ai vu la sélection, je me suis dit, oh, Calibre, je vois pas du tout ce que c'est. Je vais aller chercher un autre film plus connu parce que pour faire du ronflant, parce qu'on veut plus d'auditeurs, plus d'argent, c'est ça, Parlons Péloche.
On ne touche toujours pas d'argent, nous.
Non, je veux plus d'argent grâce à Parlons Péloche. Et je suis allé voir les notes de Calibre et je fais, oh, il est fichtrement bien noté ce film.
Ouais, il y a des bons films sur Netflix. Hein,
et là, je ne peux que te remercier, Fouad, de m'avoir fait voir ce film. Merci, Fouad.
C'est mon plaisir.
Explique-nous, toi, est-ce que c'était du coup T'avais envie de le mettre en avant, ce film?
Oui.
Particulièrement?
Ouais, tout à fait.
Fouad, on t'écoute.
Parce qu'il y a. Il y a des bonnes péloches, faut bien chercher. Il y a des bonnes prods.
Des familles.
Des familles, des carrément. Et il faut bien chercher. Il y en a un, alors c'est pas le genre de ce soir, mais qui s'appelle Ritual. Regardez-le, c'est un film anglais.
Il parle d'un autre film.
C'est Ritual.
Allez, c'est ça voir. Que j'aime chez Fouane, moi. Et, sa truculence, comme on dit.
Le film de Jérémy Saunier, Hold the Dark, un truc comme ça. Regardez-le, c'est vraiment, c'est formidable. Et ouais, je l'ai vu, ça m'a mis une petite claque, Calibre. Ouais, ouais. Et effectivement, comme vous dites, c'est deux potes dont l'amitié va être mise à rude épreuve par ce drame. Et à un moment donné, il t'arrive un drame, il n'y a pas de témoin. Qu'est-ce que tu fais? Et t'as une petite chance de t'en sortir.
Ouais.
Et c'est ça le truc, c'est que entre t'en sortir, mettre ça sous le tapis et cacher ça sous le tapis et garder ça dans ta conscience pour toute ta vie, ou bien la jouer honnête. Et enfin voilà, tu fais quoi? Surtout que l'un des deux protagonistes a une femme enceinte, ouais. Donc il a des choses à perdre. Et en même
combien d'enfants, Fouad?
J'en ai pas.
Non,
encore,
mais pas reconnu.
Moult.
Mais
c'est ça le début du film. Hein. Le début du film qui me fait marrer, c'est que je me dis, oula, tout va trop bien pour lui. Il va y avoir une couille.
et puis ça parle aussi de deux gars de la ville qui vont, tu vois, plutôt citadins, ouais. Qui vont à la campagne. Et ça parle de la mentalité de la campagne. On est dans une petite communauté où tout le monde se connaît. Alors, on connaît le petit dernier de l'autre. Tout le monde se connaît, tout se sait. Et c'est intéressant de voir ça. Et on a ces deux citadins qui pensent qu'ils vont se la jouer, ils vont s'en sortir, mais couille après couille, en fait, l'étau va se resserrer. Et c'est ça qui est passionnant à voir. C'est toi qui disais le refermement de l'étau.
Je préfère faire dans le micro.
Sur les personnages.
Ouais.
Et ça, c'est vraiment trippant. Et là, ce qui est intéressant, c'est que les traqués ont quelque chose à se reprocher.
Ouais.
Ce ne sont pas des victimes. Et finalement, ils sont traqués pour une bonne raison.
Bah là, il y a une chasse à l'homme un peu involontaire dans ce film,
oui,
à la base.
Un peu.
Et après.
Et à un moment, t'as quand même un peu envie qu'ils s'en sortent.
Oui,
et
c'est vrai, exactement. Ouais,
parce que t'as peur pour eux.
Un reverse de point de vue, là, un inversement de point de vue. Et c'est vrai que, ouais, au début, tu dis, bon, allez, vas-y, cache-le. Bon, tue-le, enterre-le, c'est bon. C'est vrai que tu prends fait et cause pour eux. Et moi, je trouve que l'acteur, l'un des deux, le blond, je trouve que c'est le sosie de Simon Pegg. J'ai trop pensé à Simon Pegg jeune. Il est et d'ailleurs ils sont excellents les acteurs anglais, ils ont tous des gueules comme ça. Ils ont des gueules burinées. Moi j'adore les acteurs anglais, les seconds rôles, ils ont des bonnes gueules, tu vois. Et là tout de suite ça pose le cadre. Il y a Tony Curran qui est très bien, qu'on a vu dans des prods américaines plus prestigieuses. Mais globalement c'est ouais, vraiment une bonne péloche des familles, Peloche Family.
Donc ouais. Pearl Harbor, Blade 2, pour cet acteur dont tu parlais.
Oui, voilà.
On a vu dans pas mal de films américains. Ma question d'ouverture sur le film, Antoine.
Non, c'était... Je voulais juste rebondir sur Fouad quand il disait qu'on a un peu envie que les personnages en sortent, mais moi, où je trouve ça bien, c'est que les deux personnages principaux, ces deux citadins, c'est qu'ils sont vraiment opposés en tout point dans leurs valeurs, ce qui fait qu'en fait, on tient pour un, mais pas pour l'autre.
Ouais, ils sont meilleurs amis, tu peux choisir ton
Mais plan, du quoi. Coup, ça, je trouve que ça soulève encore plus le message du film vers la fin. Voilà.
J'ai des poils de beubard dans ma bouche parce que le mec, il m'a coupé la barbe, voilà.
Mais vous avez d'ailleurs, juste une petite question par rapport au film, vous avez un peu pensé à votre pote...
Par rapport aux barbes.
Par rapport à tes poils de nez, non. Par rapport au film, est-ce que vous êtes... Enfin, donc, comme on dit, on s'est identifié a priori tous, vous avez pensé à votre pote et tout, vous y avez pensé...
Qui cache des corps.
Ouais, qui cache des corps, tout ça.
Et ouais,
vous êtes mis à la place, c'est ça?
Ouais, moi je m'y suis mis, ouais,
carrément. Parce qu'à chaque fois, on dit, ouais, tu sais, ça, c'est un pote, tu l'appelles à 3h du matin, tu déplaces un corps et tout.
Et jusqu'où tu élèves l'amitié.
J'ai pensé, j'ai appelé ma pote, c'était pas le même délire. Hein.
Et ouais, c'est vrai que c'était ta question est très juste. Que ferais-tu par amitié? Jusqu'où tu irais-tu par amitié?
Ouais, enfin là, il n'y a pas trop d'amitié. Non. Il fait pour sauver son cul quand même.
Ouais, c'est surtout son cul qui
veut. C'est un peu compliqué. Hein. C'est pas pour sauver son pote.
C'est
quoi.
Ah ouais, tout à fait. Parce qu'il se fait. Il s'est fait.
Il a un côté malsain en fait.
Vous dites ça, mais en même... Ah oui, non, après.
Ah non.
Il est très malsain.
Non, c'est
non, mais c'est. Non, mais je trouve ça bien. Ça fait vraiment écho à un peu à l'actualité. Parce que tous les ans, t'as des accidents de chasse.
Ouais.
Et tu te dis, bah ça tombe, il y en a qu'on n'a pas entendu.
Et très
certainement. Les mecs ont fait ce genre de trucs, quoi.
C'est possible.
Non, mais
ça arrive tous les ans, quoi.
Pour répondre à ta question, Fouad, moi je pense que pour un pote, il n'y a pas de souci. À tout moment, je suis prêt à payer un PV.
La morale, Rejoignez le commissariat le plus proche et remplissez un procès verbal.
Moi j'avais des chasseurs.
En plaidant coupable.
C'est vrai. C'est vrai. Non, il faut être honnête dans la vie, c'est un message qu'on donne. C'est un peu risqué de dire ça en 2020, mais soyez honnête dans la vie.
Ça apporte que du bon.
Ça c'est pas faux. D'ailleurs, ma question d'ouverture sur le film, si vous aviez tué un gamin en forêt par inadvertance, qu'auriez-vous fait? Fatih, elle réfléchit. Non, c'est pas ça ma question.
J'aurais été plus maligne. Ah ouais, c'est moi, pas une vraie question. Parce que moi, clairement, le trou, je l'aurais creusé un peu plus. Mais bon, voilà, c'est tout.
C'est ta réponse, Fatih. Voilà,
pas sur de la terre sans feuillage.
Ne privilégiez pas l'argile. Et méfiez-vous des chiens. Donc, absorbez de parfum d'un autre parfum. Ou de la chaux.
Du café, ça.
Mais brûlez. Qu'est-ce que vous emmerdez?
Brûlez, ouais. Moi, j'aurais brûlé.
Non, parce qu'il reste les dents. Bon, bref, allez, on va.
On s'égare peut-être un petit peu.
Non, moi, comment j'ai fait?
Oui, t'as la jurisprudence petit Grégory. Ouais. Tu peux utiliser du coup le l'estage.
Bah, il faut la Bologne à côté, c'est le problème.
Tu sais pas. Lac. Allez. Ben voilà. Comment mais je laisse tout montage là. Oh, comment le film de Chasse à l'homme peut-il impliquer émotionnellement le spectateur? Je pose cette question parce que là, je trouve que dans la simplicité de la situation, on a une possibilité de se mettre à la place.
Donc tu réponds à la question. Ouais.
Là pour le coup, c'est parce que c'est une situation simple. Mais comment c'est possible autrement?
Moi, je pense que en faisant figurer, en mettant en scène des personnages, alors j'allais dire lambda, c'est un peu péjoratif, mais des personnages
de
la vie de tous les jours, à qui on peut facilement s'identifier. Un homme qui veut sauver ses enfants, un homme qui veut échapper, qui veut rejoindre sa famille, avec des enjeux très simples, très purs, voilà.
Un citadin à la campagne,
ou vraiment des personnages. Du quotidien, des daily characters, comme disent les Américains. C'est très simple.
On n'avait pas prévenu qu'on allait parler anglais, clairement, j'ai pas révisé mon niveau.
Non, mais tu vois,
on est un podcast bilingue.
Rambo, dans un survival, dans un film de chasse à l'homme, Rambo, tu sais qu'il va gagner, tu sais qu'il va s'en sortir, c'est Rambo. Mais un cadre qui bosse chez CTLM, tu vois, et qui est en week-end dans le Var et qui est victime d'une chasse à l'homme, ouais, là, tu vas t'identifier.
Bah, je pense au premier Spielberg, à Duel.
Ouais, voilà.
Pour le coup, là, tu t'identifies.
Totalement, ouais, absolument. Ouais.
Ou même quand on avait regardé dans les films à sketch, tous ces personnages très humains, quoi, qui sont face à de la merde et qui réagissent. Je pense au film espagnol Les Nouveaux Sauvages, principalement.
Argentin. Ouais. T'avais fait
l'erreur. Argentin.
Je viens de le monter cet épisode, donc je me souviens que t'avais fait l'erreur.
Ouais, j'ai toujours fait l'erreur. Parce que c'est un peu mon côté raciste, pense. Inhérent, c'est surtout de l'ignorance. Mais
Le racisme, c'est quoi à part de l'ignorance?
Oui, c'est vrai. C'est quoi d'autre? La connerie.
Voilà. est-ce qu'on va en rajouter sur cette question? Je pense qu'on a fait le tour. Passons à la purge American Nightmare 3 de James de Monaco. Une sénatrice américaine se lance dans la course à l'élection présidentielle en proposant l'arrêt total de la purge annuelle. Ses opposants profitent alors d'une nouvelle édition de cette journée où tous les crimes sont permis pour la traquer et la tuer. Là, je fais le résumé du 3. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'American Nightmare, j'en ai marre, de American...
The Purge.
Le concept est très très fort de cette saga, c'est qu'il y a une loi américaine qui est tombée pour dire qu'une fois à l'année, on avait une soirée par an, on pouvait tuer qui on voulait et faire tous les crimes de manière impunie. Et il se trouve qu'il y a eu des résultats grâce à cette loi qui fait que le chômage est tombé et la violence est complètement tombée parce qu'il y a une espèce de soirée comme ça où tout le monde pourrait faire ce qu'ils veulent. Ça va ça, en termes de concordance? Et ben, je trouve ce point de départ génial pour cette saga qui n'a pas forcément été à la hauteur de son sujet, mais là on va en parler. Ma question sur cette saga justement, combien de dollars de recettes a engrangé la saga American Nightmare aussi dans le monde? Combien de recettes engrangées, sachant que le coût des 4 films, parce qu'il y en a 4, 37 millions de dollars de budget, à votre avis, tour
Attends,
de table.
4 unités, 37 millions.
37 millions en tout, ouais.
Waouh, c'est rien.
C'est que des 10 millions. Enfin, le premier est très très bas, mais le dernier est à 13 millions.
Okay, okay.
Fouad, à ton avis, combien de recettes mondiales?
Je dirais 600 millions.
600.
817 millions.
817, Patty.
Oh, 1 milliard.
1 milliard.
520 millions.
520 millions. Le plus proche, c'est Tristan, 457 millions de dollars de recettes. Donc, c'est très rentable et ça explique pourquoi, malgré des films à la qualité somme toute relative. On verra s'il y a des gens autour de la table qui aiment. Pourquoi ça continue d'être produit et pourquoi il va y avoir un American Nightmare 5 qui a été décalé à cause de la crise actuelle, mais il y en aura un cinquième et qui va clôturer la série. Et pourquoi il y a la série de films et
parce
pourquoi...
que le 4 c'est un préquel.
Il y a déjà eu un
4. C'est un préquel, il y a déjà eu un 4 et là il y aura un 5 qui va. Je ne connais pas le sujet. Et il y a une série aussi hein, sur le sujet. Tellement ce sujet, moi je le trouve génial. L'idée est ouf, mais je trouve que les films ont du mal à se saisir de ce sujet-là. Il est tellement. C'était tellement la bonne idée qu'elle est très très dure à mettre en scène et à mettre en avant. Patty, peut-être qui.
Ok.
T'es pas en kiff-kiff sur American Nightmare. Tu connais quoi déjà de juste celui-là, juste le 3, on va
le
parler
premier.
Principalement du 3.
J'ai vu le premier.
Et t'as vu le premier
qui
aussi.
Qui m'avait beaucoup plu, ouais. Et j'ai trouvé ça chouette.
En plus, un home invasion le premier, un survival.
Ouais. Ouais. Mais après, je crois que j'ai dû voir vite fait le deuxième, et là j'ai re-regardé le troisième. Mais moi je trouve que j'aime bien l'idée, comme tu dis, j'aime bien le concept. Tout ça, ça me parle, enfin c'est... En fait, tout est là pour faire quelque chose de chouette, mais en fait, je me rends compte qu'une fois que j'arrive devant, moi, je trouve que c'est un peu trop artificiel, trop surjoué, trop... Je dis pas, des fois, il y a des belles mises en scène, je pense, dans le 3, au moment... Moi, j'aime bien les voitures pleines de guirlandes, bon, ouais. J'aime bien les gens ouais. Qui tournent autour des arbres, enfin, avec les pendus, tout ça.
Ouais, il y a un décor, il y a des détails dans ce décor qui sont parfaits.
Ouais, il y a vraiment tout ça, mais par contre... Pour le coup, j'ai zéro empathie. Là où dans The Hunt, j'ai pu m'attacher quand même un tout petit peu au personnage, à l'héroïne. Mais après, ici, non, il n'y a rien, quoi. Je veux dire, enfin, ou alors c'est peut-être parce que. Enfin, je sais pas, non, vraiment, à un moment, par exemple, on apprend qu'il lui est arrivé un drame à la sénatrice et que c'est pour ça qu'elle veut abolir cette loi. Franchement, j'ai juste l'impression qu'elle a perdu sa liste de courses, quoi.
Ouais, non, mais. c'est le problème, de toute façon.
Il y a. Enfin, voilà. Puis...
Là, pour le coup, l'implication émotionnelle, zéro.
Ouais, ouais, que dalle.
Trop de caricatures. Ouais. Les blancs, ils sont nazis, ils croient gamés. Les noirs, ils sont gentils. Enfin.
Bah, il y a un
le
latino.
Il est migrant. Bon, non, c'est pas une caricature. Mais bon, enfin, voilà. disons qu'il y a ce truc où...
Réfé.
Patty est latino, je tiens à le répéter, parce qu'on a le droit de se moquer des latinos quand on est latino.
Oui, oui, oui. Bah oui, évidemment. Mais donc, il y a un peu trop de...
Je crois.
Non, si, c'est vrai.
C'est la règle, non.
Si, c'est vrai. Mais il y a un peu de tout ça. Et puis, en vrai, bah, j'ai une question à vous poser, quoi. Qui pète des câbles pour des barres au chocolat à ce point?
Ah ouais, non,
moment,
ouais,
c'est dingue,
moment hein. Tu veux ta barre de chocolat.
Donc, il faut l'expliquer, donc, à ceux qui n'auraient pas vu le film, il y a un personnage secondaire qui est en mode Suicide Squad,
tu
en fait.
Tu comprends pas, tu en comprends mode, pas son délire.
Ouais, elle est
les
folle.
Dinosaures, je crains.
En mode clip d'Europe de 69. Et
ouais, et ça n'a aucun sens. À un moment donné, justement, on parle de l'implication. Pour moi, t'as d'autant plus peur d'un ennemi que quand tu comprends pourquoi il a la rage, tu vois. Et si la seule explication, c'est hey, parce que moi, je suis un peu un zouave, moi. Moi, je suis un peu un mec qui met des garantes sur ma bagnole et qui est prêt à...
Attends, enfin,
ah là, ça va, quoi.
Un zouave?
Un farfelu, quoi.
Un brigandin.
Je vais te saigner.
Un doogie dingo.
Je vais te saigner, ok?
Ouais,
et je vais cramer ton magasin.
Ouais. Ça va, on s'en bat les couilles. Est-ce que tu avais fini, Patty?
Bah oui, non, juste, j'ai pas trouvé ça hyper convaincant, mais après, ça se regarde, quoi, mais je suis contente de pas avoir payé pour l'avoir vu, quoi.
Fouad, ton regard sur... Toi, t'as vu toute la...
Non, moi, les trois premiers, du coup.
Ouais. Ouais,
j'ai vu le 1,
t'as
le 2,
pas
le
3. Vu le 4, okay.
Ouais, j'ai pas
t'as
vu le
une
4.
Bonne connaissance, quand même, du coup, du sujet.
Ouais, ouais, comme Patty, j'ai beaucoup aimé le premier, qui est un concept assez fort, quoi, tu vois. Et puis, c'est horrible. Imaginez le délire. Hein?
Ethanoc.
Et puis, en plus, il y a Ethanoc.
Non, le premier. Et pourtant, c'est le moins cher. Il a coûté que 6 millions.
Ouais, bah, je trouve que, voilà, il fournit son lot de spectacles, et puis le concept est horrible, s'imaginer le délire.
Et c'est à la Funny Games, un peu, tu vois.
C'est ça. Genre, quoi, ouais, c'est genre un jour par an, allez, tout le monde fait ce qu'il veut, enfin, c'est horrible. Et donc, forcément, c'est un truc hyper spectaculaire, c'est un beau prétexte de film. Et la saga, elle est en déclinant, en fait, le 2, c'est bien, et Frank Grillo, j'aime beaucoup Frank Grillo, et qui, bon, malheureusement, n'est pas très servi par son rôle dans ce film. Il revient dans le 3, c'est très mauvais. Ça commence bien, les 15 premières minutes sont sympas, et je trouve que la sénatrice, elle est présentée comme la figure centrale du film, et elle est totalement absente. Elle subit les événements,
ouais,
totalement.
Elle traîne, elle est là, elle suit son garde du corps, elle n'a aucun impact sur les événements, c'est dommage. C'est la clé de voûte, c'est la figure centrale quand même du récit. Après, comme tu dis, Patty, c'est vrai, il y a des personnages périphériques qui, comme ça, sont très spectaculaires, joués par des super actrices. Mais effectivement, la nana qui veut sa barre de chocolaté, enfin, qui pète un câble, du coup, tu crois pas. Et effectivement, voilà, il y a un beau décorum, Il y a des idées visuelles parfois qui sont assez sympas, mais qui ne servent absolument rien, quoi. Le ressort est cassé, ça fonctionne pas. Alors, c'est toujours un plaisir de voir Frank Grillo, c'est un acteur que j'aime beaucoup, mais voilà, malheureusement là, il a rien à jouer, hein, le pauvre. Et puis, au bout de 20 minutes, une demi-heure, j'ai lâché l'affaire. Enfin, j'ai regardé le film jusqu'au bout, mais tu t'en fous après pour de ce qui leur arrive. Donc c'est dommage. Pourtant, je sais pas, les mecs, ils se disent, le premier volet a marché, maintenant, après, on roule, on déroule.
Je sais pas, moi, je repense à la campagne de com du 3. Ouais. Mais moi, je connaissais pas à l'époque le 1 et 2, j'avais juste envie d'aller le voir. Oui. La campagne de com était folle, en fait. Au cinéma, il y avait des bandes annonces hyper enthousiasmantes et le film n'a rien à voir avec les bandes annonces.
Mais du coup, c'était le premier, du coup, des trois premiers, où tu voyais vraiment la purge dans la rue, où tu voyais...
Le 2 un petit peu, quand même.
Ah oui ouais. J'ai pas vu le 2, j'ai vu que le 1, mais il me semble.
Le 1 est très différent des autres, mais le 2, tu vois un peu...
Le 2, t'es plus dans la rue.
Parce que le 3, t'es vraiment au cœur de la rue.
Le 2 et 3 se ressemblent.
Avec des groupes partout qui s'affrontent, et vraiment les gens qui veulent du sang, quoi.
Alors, c'est quand même assez cheap, hein, je trouve, parce que justement, je trouve qu'on voit pas beaucoup de gens, en fait.
Ouais, c'est vrai.
On en voit pas beaucoup. Les rues sont désertes. Les deux nanas qui se baladent en camionnette blindée, elles croisent quasiment personne, et ça et là, les gens sont tous terrés chez eux, et je trouve que, pour le coup, on voit très peu de monde se battre, en fait.
Puis t'installes des trucs que tu utilises pas, genre, il y a un JT qui montre qu'il y a du tourisme de purge, à partir du 3.
Oui, c'est ça,
on les revoit pas. Super idée,
on les revoit vite fait.
Mais vite fait,
ils se font quand même tous dézinguer, ils crèvent, ils peuvent pas revenir après.
C'est les présidents, là.
Oui.
Ouais, mais sauf que s'il y en a pas que 4-5 des mecs qui se font du tourisme de purge, fois qu'il dit que les rues sont vides, normalement, il devrait y avoir que des oiseaux.
Elle est où la purge? Alors, effectivement, on en voit plus que dans l'épisode 1, mais c'est cheap.
Et je trouve que ce côté politique, là, ça complexifie tout. Pourquoi rajouter cette dimension, en fait? Ils vont en faire un 5, donc ça va pas conclure grand-chose. Mais non, enfin, c'est un film pour ado, quoi. T'as envie de voir un film violent au cinéma, tu vas voir ça quand t'as 13 ans, 14 ans. Ça fait plaisir aux jeunes. Et voilà, c'est très parodique, en fait. Du coup, j'ai pas pris beaucoup de plaisir.
Ça frôle encore une
tout
fois. Pas le nanar, mais il y a quelques codes du film d'action un peu simpliste, quoi. Enfin, je trouve. Antoine?
Je suis d'accord avec vous. C'est globalement un film un peu vide, en fait. C'est-à-dire que pour moi, il y a beaucoup d'incohérences. Je sais que le concept de principe de purge est intéressant, mais j'ai l'impression que les criminels, eux, ne craignent jamais de mourir, quoi. C'est-à-dire que... Enfin, moi, ça me pose un problème. C'est-à-dire que oui, tu veux tuer des gens dans la rue, mais du coup, tu dois prendre en compte que tout le monde est possiblement un tueur pour toi, mais ils s'en foutent. C'est limite, ils se tapent des checks. Et je suis en mode, les gars, c'est pas comme ça que ça se passe. Enfin, je veux dire, voilà. Et surtout, tu fais pas dans la demi-mesure. Si ça fait 20 ans que ça existe, le truc, qu'il y a quelqu'un qui se pointe en bas de ton magasin, tu lui défonces la gueule. T'attends pas qu'elle vienne te scier les barreaux, quoi. Enfin, je veux dire.
C'est vrai qu'il attend longtemps avant de tirer.
Des incohérences pour le coup.
Tout ce que tu dis, ça participe au fait qu'on n'ait pas tant peur que ça. Alors que normalement, dans ce contexte-là, dès que t'es dehors, tu dois être en flip total, quoi.
Alors, voilà, mais on s'était eu au téléphone. Moi, je t'ai dit, American Nightmare 1, pour moi, c'était c'est un film que j'avais vu au Cinoche et qui m'avait beaucoup marqué parce que oui, il m'avait fait flipper. Ouais. C'est un truc que je trouve flippant, effectivement, se dire, vas-y, chacun se lâche à ses pulsions à une date donnée. Alors je comprends le délire un peu scénaristique derrière, mais dans la pratique, les gens auraient la flemme. Hein. Je veux dire, on n'a pas applaudi les soignants tous les soirs à 20h. Bon.
Ouais, on va pas les tuer.
Alors, les gens auraient eu la flemme.
Moi, j'ai coché 2-3 noms sur ma liste. Je serais bien allé régler leur compte.
Alors, oui, mais je sais que je fais partie des 3 premiers noms de cette liste.
Premier nom. C'est pas vrai.
Mais non, je fais
c'est pas vrai. C'est peut-être vrai un peu quand même.
Non. Et du coup, on s'attache pas. Et celui-là, il fait vraiment pas peur. On est vraiment plus dans un film d'action, effectivement, de série B, où on suit des personnages, il y a des explosions, mais quand même des mecs qui ont survécu à une explosion. Bref, passons, c'est vraiment flou, assez faiblard, et le propos est intéressant, mais comme l'a dit Patty, c'est vraiment tiré de tous les côtés pour te dire des messages sociaux.
Là, il y a un rapport qui a été fait avec la campagne de Trump, parce qu'il y avait une campagne présidentielle très violente. Sauf que le film a été écrit largement avant, donc James de Monaco se revendique pas du tout comme ayant voulu critiquer la campagne de Trump, mais il se trouve que le seul petit aspect positif de ce film, c'est qu'il y a des échos avec la vraie vie, alors qu'on est dans un délire qui exacerbe tout.
Tu vois, quand un auteur a voulu écrire sur un connard et qu'au final un connard existe vraiment, c'est fou. quoi. Incroyable.
Puis c'est une franchise qui a, je pense, encore de beaux jours devant elle, avec tout le contexte social aux États-Unis, Black Lives Matter, etc. Effectivement, c'est un concept qui va surfer là-dessus à fond la caisse. Je pense que j'irai pas plus loin que le 4. Peut-être que je regarderai le 4 d'un œil, on verra. Mais
le 4, c'est sur la première purge, c'est ça le scénario.
Ah,
c'est
d'accord, la toute première.
Et le 5,
c'est
ce qui m'intéresse le plus, en fait. Donc, ouais. Je pense que je vais regarder le 4 parce que je me dis, tiens, la première purge, comment les gens réagissent. Je veux dire, c'est là où tu dis, t'as vraiment toutes les questions morales de, est-ce que les gens se disent, est-ce qu'on a vraiment le droit de tuer quelqu'un?
Est-ce que ça va être traité comme ça? Je sais pas, c'est encore de Monaco au scénario, mais cette fois, il quitte la réalisation pour le
5?
Le 4ème. Le 4ème, c'est pas lui, et le 5, ce sera encore un autre réalisateur.
D'accord. Le 6, c'est sur le coronavirus, non?
Le 6, peut-être, c'est sur les latinos. Le 5, il a promis, il a dit, oula, c'est fini après. Mais par contre, il y a une série qui s'intéresse, peut-être que ça te plairait plus, qui diffusait sur quoi, je sais pas, HBO je crois, qui s'intéresse à l'intérieur des purges. Là on voit vraiment par exemple les soirées des pères fondateurs, des trucs comme ça. Et là c'est la série.
Sinon, moi mon truc préféré de la purge, c'est l'épisode de Rick et Morty où ils arrivent sur une planète et où il y a une purge.
Mais en vrai, en un épisode, ça te défile
beaucoup plus de trucs et ça va beaucoup plus loin que 4 films quoi. Enfin que 3 films que j'ai vu.
Il est vraiment chouette.
Ma question sur le film, on va faire rapide là-dessus. Pourquoi ce genre attire-t-il autant de gens en salle? On a souvent, globalement, le survival, hein, on peut dire. Hein. Souvent, c'est un genre comme ça qui plaît. Moi, ma première réponse, c'est que je pense que graphiquement et en une bande-annonce, tu peux facilement capter l'attention. Je parlais d'American Nightmare 3, je vois le scénario, même le 1, je me souviens. T'as envie de le voir, ça. Mais qu'est-ce qui explique également ça?
Le pitch, la marque, enfin, de toute façon, ça fait venir les jeunes. Enfin,
c'est ça.
Le pitch est tellement kiffant à la base que.
Ouais, carrément.
Les gens ont envie de buter, je pense. Aussi.
Non, mais c'est, ça en fait, c'est.
C'est d'accord avec Pat.
C'est ça. Et puis, en fait, ça te permet de vivre en toute sécurité des sensations extrêmes que tu ne peux pas vivre dans le réel.
Tutoyer.
Et c'est, en fait, le cinéma, c'est aussi. C'est un peu ça, finalement. C'est vivre des émotions exacerbées, amplifiées. Que tu n'as pas un tel niveau dans le réel. Et la chasse à l'homme, c'est ça, ça assouvit tes pulsions de peur, de manière en toute sécurité.
Bon, on a toujours voulu tuer quelqu'un à un moment dans
déjà, ouais, on a tous eu probablement peut-être des pensées un peu extrêmes, un peu violentes, qui sont comprimées. Et du coup, ce genre de film, ça te permet de
lâcher la bride.
En fait, c'est de la drogue, hein, parce que tu sécrètes dans le cerveau, tu sécrètes des
sérotonine.
Non, j'ai oublié. Je suis désolé, j'ai oublié.
Encéphaline.
La toxine.
La dopamine.
Ouais, je crois que c'est ça. C'est ça. Des montées de dopamine.
Alcatel.
Ou de la noradrénaline.
T'as un shoot de dopamine dans le cerveau.
Végétaline.
Et du coup, ça te fait kiffer. T'as envie d'y retourner. Je pense que c'est ça, en fait.
Mais c'est vrai, on fait les cons derrière.
L'instant, c'est pas sorti.
Mais tu vois, le truc, c'est que c'est là que ça me fait flipper, moi. Les gens vont voir ça parce que ils disent putain, j'ai envie de tuer mon patron, c'est horrible et tout. Mais je trouve ça dingue, ça veut dire qu'ils sont plus en kiff d'aller voir ce genre de truc parce qu'ils ont des pensées comme ça. Et donc, c'est là où je me dis attends, je préfère quoi, une vraie purge ou des gens qui sont à fond dans ce truc-là. Enfin, bref, non, je sais pas, en fait, c'est peut-être pas logique. Mais disons qu'il y a ce côté-là qui me fait flipper. Et peut-être parce que moi, je suis pas à fond dans ce genre de film. Et que je suis plus, je vous le dirai tout à l'heure, mais dans des films réalistes gore, plus. Voilà.
Des films gore réalistes.
Voilà.
C'est ça.
Ouais. D'accord.
Ah. Antoine.
Moi, je pense que. Je suis assez d'accord avec Patty. Je pense que ce film, il s'adresse surtout.
Maël.
Patty Maël. Comme Tristan disait, je pense qu'il s'adresse aussi aux jeunes. American Nightmare, c'est des pitchs et c'est vendu comme l'a été Projet X, comme l'a été
des délires d'adolescents. Les Blumhouse, de manière générale, s'adresse beaucoup aux jeunes, en salle en tout cas.
Ouais, tout à fait.
C'est vendu comme des films ados, c'est-à-dire pas dans le teen movie en mode on va exploiter un peu la croissance de l'adolescent vers l'âge adulte, mais plus en mode tu as des nouvelles pulsions aujourd'hui, tu vis avec, comment tu peux les exulter.
Les jeunes, de toute façon, une fois sortis de MSN Messenger, ils ont besoin de violence. Donc ils vont la chercher au cinéma.
T'as imité un Wiz?
Oui.
J'étais pas sûr, mais.
Ah non, je l'avais pas.
C'est dur, c'est très dur à imiter. Ma question classique.
Je suis le seul imitateur Wiz en France.
Nicolas Cantwiz. pas forcément jeu de mots de dingue, mais jeu de mots de fin d'émission. Ouais, si vous ne deviez pas grand chose, hein. Si vous ne deviez en retenir qu'un dans cette sélection, lequel serait-ce, Fouad?
Calibre.
Calibre.
Je vais dire The Hunt parce que je sais que vous allez dire Calibre.
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 J'ai fait les plus de plaisir avec The Hunt.
C'est vrai. Mm. Ah. Donc c'est à moi de choisir. Oh. Eh bien, The Hunt. Je crois que je ne t'aime plus, je vais choisir Calibre. Le chanteur Calibre.
Je pense qu'il faut voir Calibre.
C'est compliqué, mais en tout cas, on parlait de péloge des familles, bonne péloge des familles. The Hunt et Calibre rentrent clairement dans cette discussion. Fouad, tu valides.
Au fond, la caisse, je valide Label Rouge.
Label Rouge. Donc allez, on fait une égalité pour une fois. Calibre et The Hunt, parce qu'on va, on va pas y trouver le même plaisir, on va y trouver deux dimensions du film de chasse à l'homme. Donc regardez les deux pour vous faire un avis sur ce genre. Si vous ne le maîtrisez pas, mais si vous voulez le maîtriser encore mieux, que faire? Eh bien, il suffit d'aller voir nos références. Quand est-ce qu'on présente nos références? Eh bien, dans la séquence qui arrive, laquelle est-ce? Fouad.
You fuck my wife.
Voilà, là, c'est bon.
You fuck my wife.
What?
You fuck my wife.
Le you fuck wife, le you fuck my wife. Donc après,
le you fuck my Fouad.
Le you fuck my life, ouais.
My wife.
T'as un peu foidé ma life, Fouad. Donc après avoir vu trois films, c'est compliqué. Donc après avoir vu trois films de chasse à l'homme récents, nous allons nous intéresser à nos références autour de la table. Quels sont vos films de chasse à l'homme de référence et pourquoi? Je propose de donner le bâton de parole à Tristan.
Ouais. Alors moi, il y a plusieurs films coréens. Parce que je trouve qu'en chasse à l'homme, alors c'est toujours la même chasse à l'homme, hein, c'est un serial killer qui est traqué.
Ouais.
Donc c'est pour ça que je dis que le cadre est un peu large, parce que pour le coup, là il y en a beaucoup.
Tu retrouves au moins des ingrédients de la chasse à l'homme, mais c'est pas forcément des
films de chasse à l'homme. Dans les films coréens, il y en a vraiment beaucoup des serial killers traqués par la police ou par des mecs lambda. Et il y a The Chaser de Na Hong Jin qui est vraiment ouf, parce que pour le coup, là il y a de la tension, il y a une course-poursuite vraiment hyper haletante. T'as The Murderer du même réalisateur. J'ai rencontré le diable aussi.
Ouais. Moi, je l'ai rencontré une fois, à ce qui paraît, il s'habille en Prada. C'est les infos que j'ai.
Non, mais c'est. Pour le coup, il y a un côté gore aussi, parce que dans ces films-là, les scènes de torture ou les scènes de meurtre sont assez sanglantes et assez visuelles.
Ah ouais, c'est, ce cinéma veut ça, ouais.
Pour le podcast, j'ai revu Le Fugitif avec Harrison Ford qui est vraiment. Qui est parfait, bien, en fait, il est vraiment parfait pour le genre, je trouve, hein, de A à Z. C'est vraiment le film des années 90. Le Harrison Ford parfait, quoi. J'ai aussi Le Chacal avec avec Bruce Willis, que moi j'adore, avec un petit second rôle de Jack Black qui sort de nulle part, qui est poursuivi par Richard Gere, je sais plus.
Oui,
je crois Richard Gere.
C'est dans celui-là où Bruce Willis il met des perruques.
Ouais, exactement, ouais, c'est lui le méchant. Ouais.
Je l'ai jamais vu celui-là.
Et j'avais aussi No Country for Old Men, Zero Dark Thirty, qui est assez ouf. Oui. Et arrête-moi si tu peux, un peu plus léger.
Ouais, complètement. Et là, c'est carrément. Ça qu'on a. On a eu du mal à mettre de frontières entre les films de track et les films de chasse à l'homme, parce qu'au final, pour moi, dans Chasse à l'homme, il y a la notion de vouloir tuer. Arrête-moi si tu peux est plus un film de track dans le sens où c'est une arrestation. Donc voilà, pour moi, la limite, je la mets là. C'est aussi qu'il y a une notion de tuer, quoi. Donc
moi, il n'y en a aucun dans ma sélection.
Bah, on s'en éloigne, mais comme je l'ai dit, on retrouve au moins des ingrédients du genre. Donc si vous voulez approfondir le genre.
Bah, Chaser, quand même.
Voilà.
Oui, oui.
Et ça reste des bons films que tu as proposés. Donc les gens ne passeront pas un mauvais moment. Ils diront pas, oh là là, parlons péloche, on nous en dit, et puis finalement, on ne respecte pas ses engagements. On l'aura ce retour, mais Patty, tes films de référence.
Alors, c'est vrai que moi, il y avait No Country for Old Men que j'avais vraiment beaucoup apprécié.
Une volonté de tuer, là.
Et ouais. Et d'avoir une coupe de merde aussi, c'est une sacrée volonté. Mm. Mais sinon, après, il y avait Desierto. Alors, d'un coup, j'ai plus le nom du fils de Cuaron. Est-ce que ce serait pas Alfonso? Non, est-ce que ce serait pas Alfredo? Est-ce que ce serait pas Francisco? Est-ce que ce serait pas. Je ne sais plus.
Bah, Google va nous aider, hein, c'est bon. Ronas.
Ok.
Ou Jonas.
Ok. Bah rien à voir. Et ben
Julien.
Il avait fait un film sur pour le coup là Chasse à l'homme mort avec Gael Garcia Bernal et je n'ai plus son nom, le Negan dans Walking Dead. Je sais pas si vous avez son nom, mais donc en fait Negan joue un espèce de Texan bien vénère de la gâchette qui tue des migrants qui arrivent sur le sol américain. Alors il a été beaucoup critiqué ce film, mais moi je l'ai beaucoup apprécié, au moins pour les images parce qu'elles sont belles, mais en plus de ça. J'ai une passion pour Gael Garcia Bernal. Je pense que je vous en parlerai mais mille fois. C'est un acteur de talent de ouf et je l'ai apprécié. Mais sinon, Mon chouchou, mon number one, tout ça, c'est le film Apocalypto. Je sais pas si vous l'avez vu.
Ah bah ouais.
Et alors lui, mais pour le coup, il réunit tout, ouais. Tout ce que t'as dit tout à l'heure, et on est dans l'empathie parce que c'est, en fait, on est plongé dans la civilisation maya, et en gros, c'est des clans qui s'affrontent, et il y a un clan qui vient pour chasser un homme du village, et en fait, il est poursuivi, et lui, il veut sauver sa famille, et donc on est comme ça dans une traque dans la forêt. Et comme tu disais tout à l'heure, Fouad, tout ce qui est nature et tout ça, moi, je préfère carrément, en fait. Je veux dire, c'est peut-être pour ça que j'ai moins accroché avec tout ce qui est dans la ville, parce que Calibre, j'ai adoré, c'était aussi dans une forêt, d'ailleurs. Mais là, il y a tout. Il y a tout, voilà, il y a du sang, il y a du mais pas gratos, parce qu'on, enfin, Mel Gibson, il a tout reconstitué, en plus il a fait appel à des archéologues, enfin un truc de vraiment, ouais, il est ouf, on est dedans dès les premières images, on est dans le milieu de la chasse et de la traque, et donc vraiment c'est un film, je vous le conseille si vous l'avez pas vu, et il est magnifique, et ça se passe évidemment en Amérique latine. Voilà.
Bah moi, je vais faire une petite transition en donnant une référence pour une fois, parce qu'elle me tient à cœur. C'est un film... Bon, on en a déjà parlé hein, largement de ce réalisateur et de ce film dans Parlons Péloche.
Weekend
mais
à Suite-Côte.
De quoi? Weekend à Suite-Côte. Non, c'est The Lobster de Yorgos Lanthimos. Ah, parce qu'il y a,
ah oui.
Là, le concept de t'es chassé quand t'es célibataire. Il y a des... Oui. Et y a, donc, tu peux aller dans un hôtel pendant un nombre certain de jours. Et si tu tombes pas amoureux, tu finis par... te transformer en animal, ou alors si tu t'échappes de cet hôtel, et ben tu te fais chasser par les gens de l'hôtel, et les gens de l'hôtel, s'ils arrivent à te buter, gagnent des crédits pour rester plus longtemps dans l'hôtel, et du coup il y a des scènes de chasse à l'homme, il y a une chasse à l'homme en toile de fond qui est je trouve assez jubilatoire, quoi, parce que là tu sais que c'est complètement dystopique et que c'est pas le vrai monde, donc c'est assez chouette. Antoine, peut-être tes références?
Alors, j'étais un peu comme Tristan et comme Fatima, c'est-à-dire que j'avais Le Fugitif, j'avais Apocalypto, Rambo évidemment, hein, qui est un classique, mais j'avais pensé à Mad Max Fury Road en récent, très récent, qui est vraiment
carrément.
Une chasse à l'homme, hein,
ouais,
ils vont le poursuivre à l'autre bout du désert.
Il fallait le mettre dans la sélection.
Et alors après, il y en a deux dont j'ai vraiment envie de parler. Et oui, ce sera mes jeux pour mais parce qu'ils sont importants. C'est Eden Lake.
Je te dis tout de suite, Jean.
Ah ouais.
Oh là là,
c'est une beauté pour tes jeux, Antoine. Je te dis.
Super film.
Préparé un petit truc.
Ah, c'est vrai, cool.
Eden Lake, génial.
Alors,
j'ai adoré aussi.
Eden Lake, c'est vraiment ce petit couple qui va à la plage. Il y a des jeunes qui écoutent de la musique un peu trop fort, qui leur disent de baisser le son. Ils ont un gros pitbull, mais en fait, ça se passe pas comme ils veulent parce qu'en fait, voilà. Et ils finissent par se faire traquer dans les bois parce qu'un accident malencontreux arrive et que le chien meurt aussi, ça joue. Donc voilà, et donc c'est une tension constante, c'est incroyable de tension. Et là, t'as le côté nature, mais t'as aussi le côté un peu critique de la société avec quel est l'environnement éducatif dans lequel ils évoluent, tu vois,
c'est
certaines familles,
là.
Des enfants et tout. C'est assez dingue. Et ensuite, Severance,
oui.
Qui est, pour moi est, c'est comme The Hunt, c'est un plaisir de chasse à l'homme fun. C'est un des films de chasse à l'homme que j'ai vu au cinéma en premier. Il est genre sorti en 2006. Alors je m'en souviens très bien parce que j'avais le choix entre. J'étais avec un groupe de potes, soit on allait voir Severance, soit on allait voir Poltergeist. Avec.
Alors vous avez
avec Clovis Cornillac. Donc
quel bon
je suis allé voir Severance. Et,
dommage.
Dommage. Je
sais pas, c'est à côté de quelque chose.
Et c'est fun, c'est vraiment cool. C'est des gens qui pensent sur une partie de paintball, mais en fait, ils commencent à se faire défoncer par une vraie milice, quoi.
C'est des collègues de travail, hein, je crois.
Ouais, c'est des collègues de travail.
Dans la même boîte. Hein,
ouais. Et la boîte leur a dit on vous offre un week-end de paintball. Mais là, il y a une vraie milice qui, en fait, leur tire dessus et pas avec des bits de peinture. Donc, ils commencent un
truc
à douiller. Et t'as plein de scènes drôles avec des jambes coupées
c'est
et tout. Et, c'est, et je trouve que c'est. Voilà, The Hunt, pour moi, un peu cet esprit. Là et il va plus loin dans le message un peu de critique de la société que Severance, mais Severance c'est un bon plaisir du dimanche.
Et c'est d'un réel que j'aime beaucoup, c'est Christopher Smith, qui est un excellent réalisateur. Faut voir tous les Christopher Smith.
Et j'ai juste un dernier. Alors ça, c'est mon petit plaisir. En réfléchissant au chasse à l'homme, je me suis dit, quel est le meilleur film de chasse à l'homme que j'ai jamais vu de ma vie? Bah, c'est Die Hard. C'est Die Hard 1.
Ah ouais.
Voilà, c'est tout le monde cherche à buter John McClane. Bon, alors après, c'est pas la nature. Mais
non,
il est tout seul face. Il est traqué par.
Ouais, il est traqué, on peut dire
il
ça.
Il est traqué par Severus Rogue et c'est tout ce qui compte.
Ouais, c'est pas fou. C'est un bon petit résumé. Fouad ?
Alors moi, c'était Apocalypto, ma référence, donc on va pas s'attarder dessus.
Si.
C'est un film de Mel Gibson, qui est juste l'un des plus grands réalisateurs qui existe sur Terre. Il a fait des très grands films. Et ce qui est intéressant avec Apocalypto, c'est que il s'appelle Pat de Jaguar, le héros Pat de Jaguar. C'est que là, il a une motivation basique. Il doit sauver sa femme et son bébé. Et il est traqué. En plus, les mecs qui le traquent, c'est vraiment... T'as pas envie de prendre un café avec eux. Ouais. C'est vraiment des... les mecs, c'est des putains de guerriers sanguinaires. Et ce qui est doublement intéressant, c'est que c'est sur fond de déchéance, de déclin de la civilisation aztèque. C'est ça qui est intéressant.
Maya.
Maya, pardon. Excuse-moi. Excuse-moi, Maya.
Maintenant, on est spécialiste.
Oh, Maya, aztèque. Hein. C'est pareil. Hein. C'est Dora, hein, tout ça. Hein.
Attends. C'est qui ont attaqué pendant la guerre, les Chinois du Japon ou les Chinois de Chine?
Non, c'est pas ça. Non, ouais, Maya, autant pour moi. Et c'est ça qui est intéressant, c'est un film qui compte la déchéance d'une civilisation. Et il y a un très beau carton, je ne sais plus si c'est au début ou à la fin du film, qui dit que, je crois que c'est une citation, tu ne conquiers une civilisation que lorsqu'elle est déjà pourrie de l'intérieur. Et en gros, ce que le film sous-entend, c'est que les Indiens d'Amérique, les Mayas d'Amérique du Sud ont été conquis par les Portugais, les conquistadors.
Parce qu'ils étaient déjà,
pourris à la fin. C'était déjà la déchéance à l'intérieur. Et il y a des véritables visions d'horreur dans ce film, hein, absolument terrible. C'est un chef-d'œuvre exceptionnel. Donc c'est un film absolument immense. Et un film que j'ai jamais vu, mais que je compte voir, parce qu'on a beaucoup parlé, Les Chasses du Comte Zaroff.
C'est le numéro 1 dans le genre.
Ouais, alors apparemment, c'est vraiment l'arrêt, c'est le 2001 du film de Chasse à l'homme.
Et j'ai complètement oublié, du coup, de parler, parce que j'ai découvert ce grand classique du cinéma que très récemment, mais M. le Maudit, dans le film de Chasse à l'homme.
Fritz Lang, moi je ne l'ai pas vu perso, mais il paraît qu'il est, ouais, effectivement.
Alors, il faut remettre le contexte, il faut remettre dans l'époque, mais c'est un film de...
C'est plus une traque qu'une chasse à l'homme.
Ouais, c'est... C'est un acharnement, mais après, il faut voir. C'est juste que ça mélange film de procès aussi.
Et et je termine juste sur les chasses du comte Zaroff. Hein.
C'est une des refs, je pense, pour The Hunt. Je crois que j'avais vu un article.
Ouais, et pour les orthophonistes aussi, c'est...
c'est une ref.
C'est une ref. Ouais. Mais en fait, il est co-réalisé par Ernest B. Schoetzack, qui est le co-réalisateur du King Kong de 1933. Donc, c'est un film qui est doublement intéressant. Ernest Schoetzack et Marianne Cooper sont deux aventuriers, c'est un peu des aventuriers, des baroudeurs qui parcouraient le monde entier, quand on connaissait pas encore le monde entier, pour filmer des peuples inconnus, en fait. Ils filmaient des Africains, ils filmaient des gens que personne ne voyait à l'époque. Ils ramenaient des papous. C'était les premiers films d'aventure, en fait. Et il a co-réalisé ce film-là, donc je pense qu'il doit être remarquable.
Donc tu disais que c'était doublement intéressant, je te propose de passer à une séquence doublement inintéressante, à savoir tout de suite le pilule bleu, pilule rouge.
Choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles.
Antoine, alors ?
Yes.
Toi, qu'est-ce que tu as un peu proposé?
Eh ben, je croyais que tu m'avais préparé quelque chose, tu m'as teasé.
Ah, alors ce que je t'ai préparé, c'est que maintenant qu'il y a une bonne réponse, il y a ça,
ça. T'as pas envie qu'on arrête là?
Donc, quand on a une bonne réponse, c'est soit ça. Soit ça.
Ah oui.
Soit ça. Voilà, donc là, j'ai un peu fait
monter en pression là, pour la dernière.
Je choisirais selon l'épicness de ta proposition.
Logiquement, quand on hurle à la fin, tu peux lancer le troisième.
Ouais, le troisième, je sortirai pour les grandes occasions. Ça, c'est sûr.
Très bien. Vous êtes prêts?
Oui.
Le village se rendort.
Oh non.
Attends, techniquement, ça peut être de la chasse à l'homme, ça.
Ouais, garou, c'est ça. Chasse à l'homme, non?
C'est une chasse à l'homme. Ah,
le garou,
mais ça fonctionne.
Ça peut être l'homme, ouais.
Et durant la nuit...
Je ferme les yeux, je suis roleplay.
Pourquoi on n'a jamais fait de loup-garou avec Antoine?
Moi j'ai déjà fait,
c'est le meilleur.
C'est le meilleur, pour être... J'ai oublié le nom.
Compteur.
C'est Antoine. Il trouve des métiers à tous les habitants des villages.
Oui,
je fais des anecdotes
du background.
Et tu te marres. Mais je me souviens d'une fois, alors petite anecdote, je suis désolé Antoine de faire des clés dans ton jeu. On jouait au loup-garou, ils faisaient le compteur. Et puis ils sortaient plein d'anecdotes de métiers sur les gens, c'était trop marrant. Et je pense qu'il n'y a que moi qui aimais le délire. Et les autres, ils avaient envie de jouer très.
Très cool, ils voulaient juste buter des gens.
Voilà, moi j'adhérais beaucoup au délire d'Antoine. Je crois que c'est ce soir-là qu'on est véritablement devenu.
Ouais, je pense, ça joue.
Bon, ça faisait déjà un moment.
Ouais, c'est un petit plus. Donc le village se endort. Tout le monde est apaisé. Quand tout d'un coup, dans la nuit, ils entendent... un rire retentit. Ils savent ce que c'est. Tout le monde se réveille, il est 3h du matin. Ils retrouvent un cadavre. C'est celui de Béa. Aligné au milieu de la tente centrale.
On n'a rappelé personne.
Non, ça qu'on les a pas rappelés.
J'ai très vite renoncé. Ils sont là à côté de leur téléphone en train d'attendre.
Ouais. On est mieux sans eux, en fait.
Ouais.
David gît également à ses côtés. Et c'est alors que... c'est ma boîte à rire, ça. Et c'est alors que le village se réunit. Vous êtes tous réunis et vous n'avez comme indice que 5 jeux de mots éparpillés un peu partout dans le village.
Okay.
Tous semblant mener à la même personne. Mais qui est-ce ? Peut-être le conteur de cette histoire.
C'est sûr, hein. Peu de suspense, hein. Mais bon.
Vous remarquez que les jeux de mots tournent autour de deux films, ouais. Eden Lake et Severance.
Ok.
Alors, pour petit rappel, Severance, c'est des collègues qui s'offrent un week-end de paintball, sauf que l'équipe d'en face a oublié d'utiliser des armes non létales.
Ok.
Donc, c'est un peu dangereux. Et Eden Lake, c'est un couple qui s'offre un week-end au lac contre une bande d'ados qui se prennent pour John Wick. Okay. Voilà. Alors. C'est un couple qui s'offre un week-end près d'un lac contenant un crocodile de 10 mètres ayant mangé plein de petits John Wick. Un crocodile géant dans un lac, un film de série B.
Solitaire.
Non.
Paléontologue. Ouais.
Je l'ai pas le film.
Acide.
Eden Lake.
Ah, Eden Lake Placide.
Eden Lake Placide.
Ah oui,
j'avais complètement oublié qu'il fallait. Ouais.
Lake Placide.
Je croyais que c'était un quiz normal, tu vois.
C'est des collègues qui s'offrent un week-end paintball, et c'est alors qu'ils sont tombés sur Poulvord et Roche Dizem qui ont volé le cercueil de Charlie Chaplin. C'est tiré d'une histoire vraie, je sais pas si ça vous parle, c'est un film de 2014 à peu près.
Attends.
Un film français, du coup, forcément. Ça vous parle pas ? Je me suis que vous voulez. En fait.
C'est quoi les Eden Lake et quoi ?
Non, là c'est Severance. C'est des collègues qui sont en. Oui. Et du coup, un film avec Poulvord et Roche Dizem qui ont volé le cercueil de Charlie Chaplin pour demander une rançon. Une rançon et.
De film.
Et du coup, Severançon de la.
Severançon de la gloire.
Très bel amour de foi, là.
Severançon de la gloire.
Oui. Tu sais, parfois il faut forcer.
Oh, c'est bien. Non.
T'as remarqué que j'ai toujours pas utilisé le deuxième jingle plus épique. Pour l'instant, je l'ai pas encore sorti.
Il va arriver sur la fin. C'est un couple qui s'offre un week-end près d'un lac. Jusqu'à la disparition de Sarah. Ils vont alors machiner et se déplacer dans Los Angeles pour découvrir un complot et des machinations à travers toute la ville.
Ouais, Under the Silver and Eden Lake.
Alors, Eden the Silver Lake. Oh, c'est niveau 2.
Ouais, c'est parce que c'est moi qui ai donné la bonne réponse. Donc, il est pas mal celui-là aussi. Hein.
Ouais.
C'était une bonne chanson quand même. Le gros ringard. C'est une bonne chanson quoi.
C'est des collègues qui s'offrent un week-end paintball jusqu'à tomber sur deux gosses et une maison en pain d'épices.
Severance et Gretel.
Severance et Gretel, très bonne réponse de Tristan.
Ah super, ouais.
Tu l'as mérité.
J'aurais pu t'avoir, moi, mais.
En fait, ça fait des mois que je compte plus les points et là t'es en train de créer une hiérarchie des réponses. Et surtout, t'es en train de noter mon jeu.
Ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est une
elle
manière
où,
un peu. Je sais pas.
Non, mais alors là. Moi, je suis toujours dans
après, le. Il est dur
non,
ce soir, peu... le jeu.
Ouais,
c'est dur, hein. Je sais pas où.
C'est un couple qui s'offre un week-end près d'un lac pour assister
au.
Ouais, c'est le dernier. Pour assister au concert d'un des plus grands. D'un des plus grands groupes d'heavy metal britannique, les Vierges de Fer.
Bah c'est Iron Maiden Lack.
Oui.
Okay.
C'est une bonne réponse.
Ouais.
Bravo.
Le village se réveille et vous avez tous étonné que Antoine était le coupable. C'est une bonne réponse.
Bah merci Antoine pour ce
et
jeu.
On le bute.
Je dirais mi-fig, hein, on parle là-dessus.
Ouais, j'ai même pas le droit du raisin, quoi.
Non, je ne sortirai pas le raisin aujourd'hui, mais on a pris du plaisir, et c'est bien là l'essentiel. On va, nous, qu'est-ce qu'on peut
se
dire
rafraîchir.
J'espère que vous en avez... On va se rafraîchir parce que là, on a chaud. J'espère que vous en avez appris plus sur ce genre cinématographique. On va demander à quelqu'un de l'équipe de nous dire comment nous suivre sur les réseaux sociaux et sur les applis de podcast. Je sais pas, Patty, par exemple, comment on fait pour suivre Parlons Péloche?
Alors déjà, on se réunit au hammam, a priori, une fois toutes les deux semaines.
Ouais, là, c'est ce qui s'est passé
voilà,
aujourd'hui.
Clairement. Et ensuite, je pense qu'il y a Instagram,
yes.
Facebook.
Ouais.
Je pense aussi qu'il y a le site Parlons Péloche.
.fr, ouais.
On peut suivre
Twitter
tout le monde.
Aussi.
Il y a Twitter, voilà, ouais. C'est ça. Et je pense que déjà là, on est heureux, non?
Là, on est déjà très bien. Et sur les applis de podcast, Deezer, Spotify, Podcast Addicts.
Apple Podcast,
c'est vrai que je dis iTunes, c'est Apple Podcast. Et tutti quanti, parlonspeloche.fr, toutes les informations sont là-dessus. N'hésitez pas à nous mettre des commentaires et des étoiles sur iTunes, je dis jamais. Donc du coup, j'ai pensé de le proposer là tout de suite. On va finir l'émission, donc je vous propose de nous choper dans les salles obscures en respectant évidemment les gestes barrières. Au revoir.
Au revoir.
Salut.
Salut. Mes écouteurs ont fondu dans mes oreilles.
Oh la vache.
Alors. Il y a une petite brise un peu fraîche, ça fait du bien.
Ouais. C'est vrai?
Non.
Non, ça, absolument pas.
C'est l'enfer.
Est-ce que vous êtes prêts?
Oui.
Alors,
yes.
3, 2, 1.